Oh oui, le midi, c'est ton émission du midi. C'est On en jase sur Boulevard 102.1. Précisément, midi, une minute à la météo aujourd'hui. Allons faire de la pluie. On tombe pas encore. Il y a des possibilités d'averse à 40%. C'est 2 degrés. Ça va peut-être être de la pluie ou de la neige. Demain, possibilité d'averse de neige à 0 degré et moins 1 possibilité d'averse de neige vendredi. Fait que préparez-vous. On va avoir notre Noël blanc, les amis.
Ah, je suis contente.
Puis moi, je vais en faire mettre mes pneus d'hiver tantôt à 2h30.
Et il est temps, hein?
Oui, oui. Puis ouais, le pire, c'est que j'avais pas l'impression de m'y prendre trop en retard. J'avais appelé quelque part mi-octobre, mais bingo, je me suis donné 26.
C'est la neige
26,
qui est trop de bonheur, moi je suis d'accord avec ça.
C'est ça, je pensais pas me faire prendre de cette façon-là. Antonine Iaccarini, ça va bien?
Oui.
Cool, Pascal CV, tout va bien?
Très bien.
Excellent, j'invite les gens à venir nous voir sur twitch.tv. /BLVD/FM. Également, suivez-nous avec l'application Boulevard 102.1 sur App Store, Google Play Store. Et on est disponible via la web radio sur BLVD.FM. Bon, là, je me suis levé un matin et je me suis dit, de quoi qu'on va jaser? Alors, on en jase le midi. Là, j'ai pensé, j'ai dit, ah, on pourrait peut-être parler des Nordiques, mais non, ils sont plus là. On parle des Expos de Montréal, ils sont plus là. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Qu'est-ce qui est dans l'actualité? Pablo Rodriguez!
Ça fait changement.
C'est ça. Ah! Moi, je suis fatiguée pour lui. Je sais pas comment vous sentez, là.
Ben oui, nous aussi, oui. Là, honnêtement, on le voit se dépatouiller dans ses sables mouvants. Puis sérieusement, si vous êtes tanné d'en entendre parler, je veux juste vous dire que c'est loin d'être terminé, là, ça. Là.
Exactement. Alors, on fait jouer immédiatement le thème du...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Et Anto, je m'excuse, mais je vais te prendre au dépourvu dès le départ. J'adore impliquer nos auditeurs dans l'émission. Sam qui écrit « Je suis curieux d'entendre l'opinion d'Antonine sur la corroboration de la manipulation immigratoire du référendum de 1995. »
Il provoque, là. Il met 25 cents dans souverainiste.
Exactement, c'est ça que je trouve. Parce qu'hier, on a eu une super discussion avec Rémi Villemur, hein, Pascal. Puis là, Rémi, il disait hey, « Je me demande si on devrait donner le droit de vote aux gens que ça fait pas 5 ans qu'ils sont citoyens permanents. Oh, » j'avais des bémols parce que je me dis à un moment donné, moi, je pense que c'est peut-être à nous de mieux les former, d'avoir une meilleure éducation sur l'histoire, de convaincre plus de francophones. J'ai de la misère avec ça, restreindre les libertés. Mais d'un autre côté, là, je vais prendre ce langage-là. T'as une méchante crosse pareille de Jean Chrétien.
Ben oui, non, mais de toute façon, je veux dire, c'est pas un hasard, là. Puis, tu sais, quand on revisite les propos de Jacques Parizeau après le référendum, tu sais, c'était des propos qui ont été hautement dénoncés, mais ça venait de quelque part, hein? C'est tout ouais. Ça, là, c'était, il y avait une base réelle.
Ben, 400% d'augmentation. Ben oui. 11 000 citoyens en octobre 95 qui ont eu leur citoyenneté permanente.
Non, puis je veux quand même aussi préciser que ça, là, ce genre de crosse-là, là, parce que tu as utilisé le mot, je me le permets
ouais,
aussi.
Vas-y.
C'est aussi responsable de polariser dans notre société puis de faire en sorte qu'il y a eu des tensions entre les mouvements nationalistes et les personnes immigrantes, malheureusement. Mm-hmm. Parce que ça vient mettre une étiquette. Tu sais, souvent, on va pointer du doigt les nationalistes puis leur manque d'inclusivité. Mais moi, je trouve que quand les fédéralistes font des choses comme ça et instrumentalisent l'immigration à des fins stratégiques pour eux, ben ça aussi, ça vient nuire aux personnes immigrantes et à l'image qu'on en a. Il y a le PQ aujourd'hui qui dépose une motion. C'est Alex Boissonneau qui dépose une motion qui va comme suit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale prenne acte des aveux de l'ancien ministre canadien Sergio Marquis, confirmant que le premier ministre Jean Chrétien a exigé l'accélération du processus d'octroi du droit de vote aux néo-canadiens en vue du référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec et qu'elle condamne l'opération citoyenneté organisée par le gouvernement du Canada sur l'ordre du premier ministre Jean Chrétien. Normalement, les libéraux provinciaux, là, le PLQ devrait être plutôt mal à l'aise avec un libellé comme celui-là. Ça va être à suivre.
C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement.
Mauvais choix de mots. T'sais, il aurait dû dire « et les coups bas du gouvernement fédéral et du camp du non ». Plutôt que de personnaliser la chose puis
de personnaliser les votes ethniques. T'sais. Non, c'est ça, les votes ethniques.
T'sais, c'est le fun pour les personnes issues de l'immigration ou descendants d'immigrants qui étaient dans la salle et qui avaient voté oui, qui avaient milité pour le oui. Tu reçois ça comme une vraie claque d'en face.
Christian nous dit ça ressemble à un coup d'État soft. T'en penses quoi?
Ben, c'est, je veux dire, ce sont des manœuvres malhonnêtes.
Tu viens t'allumer, là.
Non, non, mais je vais pas nier.
T'es au tailleur, t'as grimacé, Rémi Villemur, autant l'Antonine, je suis rendu au ciel!
Non, mais, tu sais, vous avez sûrement déjà entendu ça, là, de la part de vieux péquistes. On a toujours l'air de roter du vieux sûr, puis tout ça, mais le référendum volé. Là, Pascal, elle vient d'être écœurée par mon expression. Mais je fais une parenthèse, d'ailleurs, parce que les gens ne savent pas à la maison, mais le studio de radio avec Pascal CV, c'est en odorama, en continuel. Pas elle, mais c'est lunch. Parce que,
ouais.
Parce que c'est le midi, et Pascal lunch en studio.
Oui, et tu sais qu'au début, je dînais plus à 2h. Maintenant, je dîne à 11h parce que Pascal me donnait
elle
trop faim.
Elle mange d'en face, fait que là, c'est ça.
Là, ça sent la belle clémentine de novembre.
Là, ça sent la clémentine aujourd'hui, mais des fois, c'est plus restant. Le restant de fondu.
Oui.
Était mon préféré de la saison à date.
Ouais, puis quand elle se prépare pour le Kilimanjaro aussi, elle avait toujours un petit poulet. J'adore le poulet.
Je fais de l'hypoglycémie, puis quand je mange pas, je crache.
Hey, c'est loin d'être une critique.
Mais vous pourrez faire votre choix, OK, la prochaine fois.
Les agrumes, c'est oui.
C'est
oui.
Non.
C'est okay. Loin d'être une critique en français. Là,
c'est
sûr
qu'il y en a la fondue, c'était une critique, je te le dis tout de suite.
Oh, ouais.
Ben là,
tu t'assumes critique de fondue.
Je pense que mes cheveux sentaient les oignons quand je suis sortie d'ici. Voyons. J'ai obligé d'aller me laver les cheveux.
Désolée. Okay. Qu'est-ce qui est le pire, la fondue à Pascal ou le cross-voyage de Jacques
Chrétien? Le référendum volé. Il n'y a rien de pire que le référendum volé. Non, mais vous avez déjà entendu ça, là, des vieux péquistes là, parler de référendum volé. Puis ça fait vraiment... Tu sais, en fait, quand tu perds puis que tu te plains contre les règles puis que tu dis, Donald Trump, « It was rigged », c'est sûr que tu passes toujours par quelqu'un d'amer et tout ça. Mais je veux dire, ce sont des faits avérés. Mm-hmm. Il y a eu des tactiques pour noyer le vote du oui. Et après ça, je juste vous rappeler aussi qu'il y a eu le scandale des commandites qui a découlé tout ça. Puis on a appris aussi toutes sortes de manœuvres pas correctes. Donc, tout ça, ce sont juste des faits.
En effet. Et voilà. 418-971-1021 pour réagir. Claude André dit Jacques Parizeau doit sourire tristement dans son tombeau. Mm. En effet, ça me fait faire un lien avec Pablo Rodriguez, notre prochain sujet. Mais parce que
peut-tu appliquer une parenthèse d'auditeur qui commente ce dont tu viens de jaser, mm-hmm. Antonine, en disant comment il a fait pour garder le secret aussi longtemps, selon
c'est
toi?
Vrai.
Comment est-ce qu'on a pu être au courant de ça et que ça implique tellement de monde et des choses aussi grandes que ça, mais que ça sorte que maintenant?
Bien, on était au courant. C'est juste que là, c'est une confirmation supplémentaire, okay. Mais tu sais, c'était pas un gros secret, là. Je veux vous dire, bon. C'est un secret de polichinelle. C'est juste que là, ben, évidemment, quand on a quelqu'un de première main qui le dit, c'est différent. Moi, je trouve aussi, en conclusion là-dessus, que ça vient aussi confirmer que... Parce que des fois, les fédéralistes voudraient qu'on n'en parle plus. Ah, hein. Oh, c'est réglé! C'est réglé, ça, ce problème-là.
C'est derrière.
Je vous annonce que c'est pas réglé.
Ben non.
Puis je vous annonce qu'un référendum qui est passé de manière très, très serrée pour le camp du non. Quand on voit en plus les manœuvres qui ont été faites, c'est certain qu'on a une impression de business pas réglé. Là.
Oui, puis je vous annonce qu'avec un dizaine de Justin Trudeau sur le multiculturalisme et plusieurs politiques qui emmenaient des déficits monstres, Mark Carney qui continue dans ce sens-là, ben ça n'en convainc de dire hey, ouais, sais-tu quoi, peut-être qu'on serait mieux d'être le Québec que le Canada. Donc c'est loin d'être terminé, en effet. Pablo Rodriguez, qui normalement serait le capitaine Canada du Québec.
Chef du camp du Nord.
Chef du camp du Nord.
Porte-étendard du drapeau que tu aimes tant. Veux-tu mettre ta main sur le cœur?
Non, là, je ne le mets pas. Je ne le mets pas. J'ai même.
C'est ta gang, ça, c'est toi? C'est tes fédéralistes?
Hier, quand j'ai écouté la première paire des Oilers d'Edmonton avec mon Edouard était encore debout comme ça pour l'hymne national canadien. Et moi, j'étais assis à manger des peanuts.
Ah ouais?
Ouais, je me suis rebellé.
Là, t'es un peu incohérent. Là.
Hier, je me suis rebellé contre mon drapeau canadien. Ça m'a fait mal.
T'as eu mal.
Ouais, ça m'a fait mal. Ça a fait mal à mon Canada hier, cette information-là. C'est des faits. Alors, j'ai pas le choix de m'asseoir avec ma conscience pendant l'hymne national.
Ouais.
Bon, c'est sûr que pendant les Jeux olympiques, là, je vais redevenir capitaine Canada un peu. Là.
J'en doute pas.
Mais
d'après moi, c'est temporaire. Là,
mais c'est ça, on verra. C'est peut-être si on achète un 20 jours, on verra ce qu'il en sera. Mais tout ça pour dire que Pablo, lui, il a dit « Ben là, on s'est dû passer, ça, comme
c'est
les fédéralistes.
C'est
dû passer. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. » Mais là, Pablo, à matin...
Non, il a dit qu'il n'était pas au courant.
Ouais, c'est ça.
Il n'a jamais été mis au courant de ça.
Il n'a pas été mis au courant de ça, mais il n'avait pas été mis au courant non plus qu'il y avait un de ses amis des fédéraux, Parti libéral, qui a ramassé de l'argent. Il n'était pas au courant qu'il y avait eu des échanges textos. Il n'était pas au courant du branle-bas de combat entre Marois Risquet et Geneviève Vint. Pablo, sais-tu quelque chose?
Ouais, c'est vraiment l'impression qui ressort de tout ça. Là, ce matin, il y avait des éléments nouveaux. Je vous dis nouveaux, OK? c'est vraiment des petites pièces de puzzle.
Mm-hmm.
On est en train de collectionner une à une de très petites... T'sais, j'ai l'impression qu'on a un puzzle 2000 morceaux puis qu'on a 15 morceaux. Mm.
C'est vrai!
On a un portrait qui est très, très sommaire. Mais ce matin, dans la presse, on nous expliquait... Bon, en fait, qu'est-ce qu'on a appris sous la plume de Tommy Chouinard? Ben, il y a d'autres captures d'écran qui ont circulé. J'ai eu accès à ces captures d'écran. Je pourrais vous les lire. Mais dans lesquelles... On parle d'un certain Fessal. Donc, le message va comme suit. Hello, la personne répond hello. Oui, le tout is done. Ça, c'était des mots qu'on avait entendus dans l'article du Journal de Montréal. The money also? Non, il faut rencontrer Fessal pour l'argent des membres et les dons. Toi, comment tu vas avec une grosse semaine? Il parle d'autre chose. Donc, Fessal, c'est en référence au député de Laval, mais le député fédéral. Libéral de Laval. Tout ça rime. Fessal, député fédéral libéral de Laval. Fessal El-Khoury, qui aurait participé à cette histoire de brownies. Et là, je le dis vraiment au conditionnel. Mm-hmm. Encore une fois, ces captures d'écran-là, c'est impossible pour moi. Et pour l'instant, on ne sait pas comment le journal va réussir à authentifier ça. Mais de vous affirmer au-delà de tout doute que ce n'est pas fabriqué. Mais je veux quand même dire, ça veut dire que ce député-là, qui s'impliquait aussi dans la campagne de Pablo Rodriguez, il ne peut pas le nier, puisque j'ai vu des vidéos de Pablo Rodriguez et on le voit.
Oui, exactement. Puis, il avait justement son brevet pour ramasser de l'argent pour Pablo Rodriguez.
Pour ramasser des dons pour un parti politique, tu dois signer un document, ça s'appelle un certificat de sollicitation. Donc, tout ça, le Parti libéral a ça entre les mains. Ça devrait faire partie de l'enquête, d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette enquête-là, je vous le dis aussi en parenthèse, on attend les détails, hein, parce qu'on a dit qu'on allait donner à une firme externe au Parti libéral le mandat de mener une enquête sur ces éléments-là, sur les brownies, et on attend toujours les détails. Je trouve ça extrêmement long, je dois vous dire.
Bien, d'ailleurs, on écoute Pablo Rodriguez à cet effet-là ce matin lorsqu'il a été questionné.
Là, aujourd'hui, il y a ce qui sort aujourd'hui. Ça, pour vous, ça allume aucun doute dans votre tête. Vous ne dites pas il y a matière à faire enquête, je ne peux pas l'enquête interne, mais de votre côté, de faire une enquête pour vérifier ce qui est arrivé, parce que là, présentement, ça paraît mal.
Le comité que j'ai créé, là, c'est-à-dire le mandat que je donne au juge Fournier, c'est exactement pour ça. Maintenant, non, mais moi, je ne me substitue pas... Comment? Je me substitue pas à une enquête que je mets sur pied pour faire la lumière. Là, qui suis-je pour aller devancer le juge et aller rencontrer tout le monde à l'avance? Je fais une enquête ou je ne la fais pas. Je fais confiance au mécanisme qui va être très transparent, que je mets sur pied. Il ira rencontrer les gens qu'il considère important de rencontrer, mais encore une fois, si quelqu'un sait quelque chose, à ce moment-là, qu'il aille le rencontrer. Si Mme Rizky dit qu'elle a eu une conversation, je ne sais pas si elle l'a dit ou non, mais si c'est le cas, qu'elle parle à l'enquête aussi. Moi, je m'attends à la collaboration de tous et chacun. J'ai tout à gagner, là, et on a tout à gagner de la transparence. C'est pour ça que je suis ici à chaque matin.
J'ai l'impression d'entendre François Legault, après le rapport de la vérificatrice générale, on nous a menti, puis une semaine après, dire hey, « ben non, je peux rien faire. Il va avoir la commission galant. » OK, je vais reprendre le commande à Pablo Rodriguez. Commande, Pablo, t'es le chef.
Ben, puis ça, c'est vrai que c'est une stratégie en politique. Quand tu déclenches une enquête, que ce soit une enquête administrative, une enquête interne, une enquête indépendante, une enquête, une commission d'enquête, peu importe la forme que ça prend, ça fait baisser la chaleur politique temporairement. Parce qu'après, si on se rappelle de la commission Saclic, je m'excuse, mais c'était pas débarrassé de la chaleur.
La CAQ a passé dans le tordeur.
Ils ont passé dans le tordeur. Donc, puis ça va être la même chose avec les libéraux. Parce que quand on gratte, on trouve, OK?
Oui.
C'est, honnêtement, là...
Puis là, les journalistes d'enquête sont en train de gratter. Fait que ça va trouver, là.
À Laval, là... C'est louche, OK? Je vais vous le dire, là, j'aime pas les théories du complot, j'aime ça qu'on soit sur du solide, mais là, honnêtement, il y a beaucoup de fumée. Je reviens sur le député Fessal El-Khoury. Il y a eu des doutes aussi quand, dans son investiture, il y a des gens qui ont témoigné qu'ils trouvaient qu'il y avait eu des irrégularités. C'est la même chose pour Sona Lacoyanne Olivier dans son investiture, dans sa circonscription de Laval aussi. Donc, moi, je pense que s'il y a des enquêtes, on verra, là. Mais, tu sais, généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. Mm-hmm. Maintenant, je suis d'accord avec Pablo sur une affaire.
Vas-y.
Tout le monde a avantage à ce qu'on fasse la lumière, effectivement.
Ben oui.
Lui, il a un avantage politique, c'est sûr. Parce qu'en ce moment, il se défend contre des fantômes puis des affaires qui flottent dans les airs. C'est impossible. Là. C'est extrêmement compliqué pour lui. Mais on veut savoir ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. Là, il y a quelques jours, il y a des militants libéraux anonymes qui lançaient un appel pour un vote de confiance. Honnêtement, c'est vraiment pas le temps de faire un vote de confiance. C'est le temps de ramasser les pièces du puzzle. S'il y a quelque chose Évidemment, le chef est imputable, puis on verra qu'est-ce que ça dépend de la nature des informations. Et s'il n'y a rien, ben on va passer à autre chose. Mais tu sais, juste sur Sona Lakoyan, Olivier, tu sais, elle était en point de presse vendredi avec son chef et avec tous les autres députés qui étaient présents, puis elle disait « j'ai rien à me reprocher », elle attaquait même les journalistes. Si elle a quelque chose à se reprocher, ces images-là vont mal vieillir. Mais Pablo Rodriguez, en attendant qu'il y ait des preuves, il ne peut pas l'exclure. Il ne peut pas exclure sa députée. Mais le jour où quelqu'un lui dit « c'est vraiment elle dans les textos » puis qu'il y a une démonstration qui est faite ou qu'il y a une enquête du DGE qui démontre une irrégularité et que ça pointe vers elle, bien là, il peut l'exclure. Mais pour l'instant, il peut absolument rien faire. Il est pogné là-dedans.
Je reviens sur le leadership de Pablo Rodriguez et je te fais écouter un autre extrait de son point de presse de ce matin à l'Assemblée nationale où on parle justement de Faisal El Khoury.
Qui ramassait des sous, comme beaucoup de monde. Vous savez, j'ai rencontré des gens, j'ai été ministre de la Culture, j'ai rencontré des gens à travers ça qui m'ont donné un coup de pouce par la suite. J'ai été ministre des Transports, il y a des gens qui m'ont donné un coup de pouce par la suite. J'ai rencontré des gens en politique qui m'ont donné aussi un coup de pouce par la suite. Donc, ça fait partie de
ça. Important, Pablo, il est important.
Non, mon entourage l'a appelé ce matin, puis il lui a dit, ben écoute, il y a cet article-là. Ben, il dit, non, mais je n'étais pas dans l'organisation. Mais oui, tu étais dans l'organisation puisque tu avais un certificat de sollicitation.
Ah!
Ah, il dit, ben moi, je pensais que c'est pas, si je ramassais des sous, je n'étais pas de l'organisation. J'ai dit,
c'est donc, ça, je fais une pause. OK, je fais une pause, là.
Hey.
T'es le chef. C'est toi qu'il faut qu'il gère la galère. Ça sort des médias à matin, 5h, à la presse. Là, je sais que Pablo Rodriguez, tout le monde en parle, il a dit qu'il était là à 6h30, puis son équipe était là avant, mais il peut se lever à 5h, OK? Et là, c'est pas toi qui prends le téléphone pour appeler, pour dire, « Hey, là, il se passe quoi? Dis-moi donc. » Tu fais appeler l'entourage. Puis là, après ça, « Ah, oh, mais non, mais là, tu sais, hein? » Je savais pas qu'il était dans l'organisation. Voyons donc, mais le gars, 70 ans, il est au PLC depuis que le PLC existe.
Oui, puis encore une fois, j'ai vu une vidéo à matin. À matin.
Mais c'est ça.
Où est-ce qu'on le voit, la vidéo de campagne, là, puis il serre dans leurs bras. Là.
Pourquoi alors mentir? Pourquoi?
Mais c'est pas Pablo que je traitais de menteur. En passant, c'était Faisal El Khoury qui dit « Moi, je n'étais pas dans l'organisation. » Hey, je m'excuse, là, mais moi, les gens qui mentent, même si c'est sur une niaiserie,
t'es menteur.
Okay. Pour moi, tu n'as plus de crédibilité.
Et là, ben,
ça
laisse le doute sur ce que tu disais avec les investisseurs qui ont été problématiques,
hey,
autant pour lui que pour la députée libérale.
C'est louche, là, ouais. Tout ça. Là. Il y a vraiment des éléments inquiétants pour Pablo. Puis, tu sais, après ça, oui, ça en dit beaucoup sur son leadership parce que c'est pas nécessairement lui qui a créé la crise personnellement, mais après ça, c'est lui qui doit la gérer, soit qu'il savait puis qu'il nous a menti, ou qui n'a pas dit la vérité, ou soit qu'il ne savait rien, puis c'est un problème aussi quand tu es leader d'un parti, puis c'est un problème de relation avec ton entourage.
Soit que tu es menteur ou incompétent.
Choisis ton option, il n'y en a pas vraiment de...
Mais il n'y a pas d'option positive.
Puis là, la suite des choses pour lui, parce qu'on est en année électorale bientôt, après les fêtes, il vient d'être élu. Le Parti libéral n'a pas terminé de recoller les pots cassés d'une course à la chefferie, qui c'est toujours un peu déchirant pour un parti politique. Il a perdu sa meilleure joueuse, qui demeure populaire. Les gens veulent croire que Marwariski avait raison. Là. Mm-hmm. Ça continue. On ne le sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Si elle a vraiment quelque chose de grave puis qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, tout va retomber sur Pablo Rodriguez. Même si elle a certains torts, ça va retomber sur Pablo Rodriguez parce que, comme on le dit, il va avoir été ignorant, il a mal géré. Et il va avoir 1 million de rebondissements dans les prochaines semaines. Parce que là, encore une fois, on a des textos qui circulent, des choses comme ça. Mais il y a aussi l'annonce de l'enquête. Il va avoir la conclusion de l'enquête. Il va avoir le DGE qui va arriver avec des recommandations. Il y a peut-être la commissaire à l'éthique qui va faire un avis sur leur manière de gérer leur budget. Il y a peut-être d'autres députés qui vont finalement perdre confiance en Pablo. Tu sais, les possibilités de tuiles sont infinis pour Pablo Rodriguez.
C'est une catastrophe d'année électorale pour le PLQ.
Et puis, il y a une poursuite en plus. Il y a Geneviève qui poursuit Marwariski. Donc, il y a plein d'affaires qui vont sortir de ça. En année électorale, c'est une catastrophe. Maintenant, est-ce que... On regarde les options. Là. Toi, t'es un apparatchik libéral, un penseur libéral, là, un stratège. Là. Puis là, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse de Pablo? Hey, tu peux pas t'en débarrasser maintenant. C'est rien. Peut-être rien. Donc là, ça va flotter pendant un bon bout de temps. Puis là, plus on avance, plus on est proche de l'élection, changer de chef à quelques mois d'une élection, c'est épouvantable. Tu sais, pour vrai, là, en politique, 6 mois, c'est une éternité.
Ouais.
Mais en même temps, ça passe vite jusqu'à la campagne électorale quand tu regardes.
Ben oui. Quand le calendrier électoral part. Là. Putain, j'ai un exemple en tête parce qu'on pense souvent à l'exemple de Mark Carney qui a remplacé Justin Trudeau. Puis
ben
là,
oui.
Mais l'exemple que j'ai en tête, moi, c'est Kamala Harris qui remplace Joe Biden. Puis Donald Trump rentre comme, train aux États-Unis.
C'est pas magique, là, changer de chef à dernière minute. Pas du tout, du tout. Et aussi, ben c'est dur quand tout le monde est un peu divisé de trouver quelqu'un qui rassemble rapidement. Honnêtement, il est dans de beaux draps, notre ami Pablo Rodriguez.
Isabelle qui écrit, c'est insultant pour les contribuables. Et moi, je vais te dire que ça, c'était insultant pour les gens qui sont syndiqués par la FTQ.
Alors là, ce qui est assez pathétique également, c'est qu'on a un ministre du Travail qui est dans la même chaise depuis 7 ans. Et il y a deux choses, Monsieur le Président. C'est soit qu'il est innocent ou il fait l'innocent. Parce que vous ne me ferez pas croire que le ministre, en 7 ans, il n'a pas eu le temps de comprendre les structures syndicales.
Ouais.
Hey, ça aurait pu s'appliquer aussi à Pablo Rodriguez. Il est innocent ou il fait l'innocent.
Ouais, en effet. Mais Magali Picard, là.
Ouais.
Là, la guerre sociale. Là.
La guerre.
La guerre sociale, parce que je veux savoir ce que tu fais avec l'argent des cotisations syndicales. Puis la guerre sociale, parce que quand la STM va repartir sur une lubie, on va leur dire non, il y a du service essentiel.
Guerre sociale, à ton avis? Qu'est-ce que tu imagines, mettons, quand je te dis on va faire une guerre sociale?
Moi, c'est les carrés rouges.
Ah oui.
Moi, c'est ça que j'ai en tête. Une guerre sociale, c'est les carrés rouges. Les carrés rouges étaient partis partout. Ils faisaient des manifs, ils faisaient du cassage.
OK, c'est le cassage. C'est le coltaillage avec la police.
Tu sais, je vais te donner un exemple américain. Ouais. C'est le Black Lives Matter.
Ouais, OK. Ou qu'est-ce qu'il y avait eu à Wall Street, là. J'ai un blanc de mémoire. Là.
Il y a le Capitole là, qui était assez intense.
Ouais, ça, c'était. Ouais, ça, je pense. C'est
pour ça que j'étais comme.
Mais
regarde, toi, ta guerre.
J'avoue qu'on était à guerre avec le Capitole.
C'est ça. Bon, guerre sociale, ouais, effectivement. Donc, c'est des manifestations, mais qui ne sont pas liées, parce que, tu sais, évidemment, les syndicats, d'habitude, ils manifestent quand ils sont en négociation pour leur condition de travail. Là, ils manifesteraient, ils feraient des coups d'éclat pour simplement dire leur désaccord face à ce projet de loi-là puis face au gouvernement de manière générale. C'est sûr que, bon, les syndicats ont de l'argent. Ils ont fait des campagnes de pub contre des gouvernements régulièrement. Ils agacent beaucoup les gouvernements. T'sais, ça fait plusieurs années que, ben, j'ai envie de dire, ils sont un peu mélangés aussi sur qui appuyer. Hein, parce qu'il y a une certaine époque de bipartisme, c'était clair, c'est qui t'appuyait.
Ouais.
Quand c'est les conservateurs contre les libéraux, ils appuyaient les libéraux. Quand c'était les libéraux contre le PQ, ils appuyaient le PQ. Quand c'était... Mais là, maintenant qu'on a plein de partis politiques...
Ben là, c'est parce qu'ils peuvent appuyer Québec solidaire. Parce que Québec solidaire a été solidaire avec eux dans la grève à l'Estienne.
Les élites des centres syndicales sont très proches de Québec solidaire, mais leurs travailleurs, là, en 2022, ils ont-tu voté pour Québec solidaire?
Non,
ils ont voté pour la CAQ.
Ils ne voteront pas pour Québec solidaire en 2026 non plus. Là.
Ben, en tout cas, ça regarde mal, mais on ne sait jamais. cela dit, on sent que les tensions sont vraiment à leur plus haut niveau entre le gouvernement et les syndicats. Et c'est vrai que Jean Boulay est ministre du Travail depuis 7 ans. Il avait relativement une bonne relation avec tout le monde. C'est quelqu'un qui entretient bien. Là, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon politique les parties prenantes. Là. Quand tu es ministre, tu as des réseaux, tu as des groupes que tu rencontres plus. Il était très juste avec ce qu'on appelle le patronat, donc Chambre de commerce, Fédération de la Chambre de commerce, des entreprises indépendantes, etc. Et de l'autre côté, les syndicats.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu de grande vague importante là, de contestation.
Ben, c'était plus dans le cadre de négociations des conventions collectives. Puis ça, c'est pas le ministre du Travail qui gère ça nécessairement. Mais là, on s'en prend au régime syndical. Vraiment, on s'attaque à ça. C'est une mesure qui est appuyée par pas mal de monde. Parce que, honnêtement, quand tu regardes ça, pourquoi être contre la transparence? Et je trouve que le projet de loi, c'est de manière bien personnelle, on peut avoir chacune nos opinions là-dessus, mais je trouve qu'il est quand même assez bien équilibré. Il y a eu un autre projet de loi de Jean Boulay qui touchait au droit de grève.
Ouais.
C'était sur les services essentiels. Et je trouvais que le projet de loi aussi était
très équilibré.
Bien équilibré.
Moi, j'ai écouté les deux conférences de presse, puis honnêtement, je sortais pas de là en me disant... Quand les syndicats mangent une volaille, ni en me disant hey, il va pas trop loin. Je trouvais que l'équilibre était le bon.
Moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Puis, à travers tout ça, ben c'est sûr qu'il y a de la politique et les centrales syndicales hier l'ont dénoncé parce qu'on sait que c'est populaire. Là, on essaie d'aller chercher des points. On voit très clair là, dans le jeu de la CAQ quand même, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort sur le fond. Peut-être que sur la forme, c'est insultant pour les syndicats de se faire casser du sucre sur le dos. Je le comprends. Puis aussi, un autre élément qui est dénoncé par exemple, Magali Picard de la FTQ, c'est qu'elle dit on fait des projets de loi sur des anecdotes. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont choqué les gens dans l'usage.
Du bail, les whisky à 55 piastres. bracelets, pick-up changeur chaque année.
Donc ça vient chercher les gens. Mais sur le fond des choses, quand tu regardes qu'est-ce qui est fait avec les cotisations syndicales, moi, j'ai jamais été syndiquée de ma vie, okay, pour être honnête.
Moi non plus.
Mais si je l'étais, je voudrais qu'on me demande, effectivement, j'aimerais ça être consultée puis qu'on me dise qu'est-ce qu'on va faire politiquement aussi avec cet argent-là.
Ben oui.
Parce que oui, il y a des budgets normaux, mais à un moment donné, une campagne de pub contre le gouvernement, attends, on va peut-être consulter sur si tu as un bon usage de notre argent. Si on s'en va poursuivre le gouvernement pour contester une loi, par exemple, on peut-tu en discuter 5 minutes? Pour moi, ça me semble juste la logique. Mais hier, Magali Picard a refusé même de serrer la main.
Oui, ça n'a pas de sens. On est dans un système démocratique. Ouais. Là, elle a bien beau dire qu'on est rendu à la droite extrême, là, t'sais, ça, c'est pas vrai. Là.
Non, mais c'est important, je pense que dans des métiers comme ça, tu es la prestance et le respect que le métier se doit.
La fonction.
Oh, oui,
à un moment donné, c'est sûr que tu vas être en désaccord avec des gens et tout ça. Il y a quand même beaucoup de commentaires, puis j'ai émis un petit commentaire du genre dans l'émission à Max ce matin.
Ah,
il y avait énormément d'orphelins politiques. Hein. Au provincial aussi, ça se voyait depuis quelques années. Ça risque d'agrandir cette masse-là d'orphelins politiques en voyant peut-être des gens vouloir changer de parti ou essayer de taquiner la truite là, dans d'autres partis politiques pour essayer de changer de place, ce qui se passe au niveau des libéraux. Est-ce qu'on pourrait avoir un grand courant d'orphelins politiques aux prochaines élections?
Oui, là, tu parles des transfuges puis des crises dans les partis.
Exact.
Dans le fond, c'est drôle parce que ça fait des années qu'on dit que l'électorat est plus volatile qu'il l'était. Tu sais, je vous le disais, là, il y a quelques années, il y avait deux partis. C'était pas compliqué. C'était ça. Puis les gens ils étaient rouges ou ils étaient bleus. Là, en gros, là, si je vous résume l'histoire de la politique du Québec, c'est pas mal ça. Puis depuis les dernières années, bien, une multiplication de partis politiques, d'options. Il y a aussi le fait que les gens font, je pense, moins de compromis. C'est-à-dire, tu sais, pour appuyer un parti, il y a toujours des choses qui vont te déplaire. Et on a vu, notamment chez les jeunes, un plus grand intérêt pour s'impliquer dans des groupes d'intérêts de pression. Tu sais, par exemple, moi, je suis environnementaliste, fait que là, je vais m'impliquer avec Équiterre, ça fait de même. Dans lesquels tu as moins de compromis à faire, parce que c'est plus précis comme cause. Mais quand tu es en politique, il faut que tu avales des couleurs. Fait que ça, là, c'est tout un grand phénomène social duquel je pourrais vous parler pendant des heures. Mais là, en plus, on a des députés qui sont volatiles en ce moment. Puis, c'est vrai que, moi, je pense que ça peut effectivement influencer l'électorat. Ça peut contribuer aussi à mélanger le monde. Parce que, tu sais, nous, on suit la politique à tous les jours, mais il y a pas mal de gens qui regardent ça. Puis, tu sais, ils vont regarder les débats des chefs, vont suivre plus aux élections, ils vont voir les grosses affaires, mais ils vont pas suivre au quotidien. Crime, mais je veux dire, si tu ne sais pas ça à tous les jours, là, tu sais plus quel député est dans quel parti. C'est pas compliqué. Il y a vraiment de quoi être extrêmement mélangé. Puis, ça alimente un peu le cynisme quand même. Les députés qui ont changé de parti ou qui sont devenus indépendants.
T'es même Pablo Rodriguez, ça ne sait plus quel député dans quel parti. Il pense que Fassal El Khoury est au PLQ, mais il est au PLC.
C'est vrai que c'est mêlant.
Il ne sait même plus, pauvre Pablo.
Ça, c'est un bon point, Jeff, en passant, à quel point les libéraux provinciaux n'ont pas envie de devenir une succursale.
Et ça, là, ça doit écorcher plusieurs. Oui. Marc Tanguay nous le disait à plusieurs reprises ici en Londres. Non,
mais c'était
on
une
est
crainte
pas...
hein, d'avoir Pablo Rodriguez comme chef, de dire on va tout devenir le PLC, surtout qu'à l'époque, Justin Trudeau était très impopulaire. Ouais. Bon, les choses ont changé un peu pour le PLC depuis, mais de devenir une succursale du PLC, c'est quelque chose que les libéraux à Québec ne voulaient pas. Et je pense que le fait d'avoir mis Geneviève Vince aussi, qui arrivait aussi du fédéral comme directrice de cabinet. Tu sais, il faut rappeler Marois Risky aussi, elle a été candidate du Parti libéral du Canada.
Oui, ça, je savais pas ça. Tu m'as appris ça aujourd'hui.
En 2015.
Yes. Hey, je veux qu'on prenne une petite minute pour parler de cet homme politique qui bat un record.
Le Bloc québécois a fait œuvre utile.
Ça, c'est en 2018.
Québec. En 28 ans, de Lucien Bouchard à Gilles Duceppe, ce grand parti a toujours défendu avec acharnement et sans compromis les intérêts, la culture et les aspirations de notre nation. Et le travail de nos députés a permis de nombreuses victoires pour le Québec. Il y a de quoi être fier. La nouvelle orientation préconisée par la chef du Bloc
Martine
québécois
subordonne
les intérêts du Québec à la promotion de l'indépendance. Or, nous sommes justement indépendantistes parce que nous sommes convaincus que c'est dans l'intérêt du Québec.
Petite anecdote historique, 2018, Luc Plamondon, député du Bloc québécois, est à la tête de d'une congrégation de 7 députés qui disent On sac notre camp du Bloc québécois. Martine Ouellet, on est plus capable. Va-t'en gérer Climat Québec. Ça va bien d'ailleurs, Climat Québec. Bon, ceci dit, Louis Plamondon.
Quand t'es tout seul dans ton parti, c'est plus facile.
Tu peux pas te chicaner. Et voilà. Louis Plamondon, bon, un record aujourd'hui à la Chambre des communes.
Écoute, alors qu'on parle de transfuges, de gens qui changent de couleur, qui lâchent leur chef, de crise, Louis Plamondon, lui, oui, il est passé à travers une petite crise.
Oui.
Ils sont devenus indépendants pendant un bout de temps, une couple de députés du Bloc. Mais un record de longévité. Moi aussi, je vais vous dire une anecdote. Ce matin, en préparant ma chronique, je voulais aller chercher des faits historiques un peu. Puis là, ben, je me suis tournée vers ChatGPT pour m'aider à gagner un peu de temps. Et j'ai demandé l'équivalent à Québec. J'ai demandé à ChatGPT, peux-tu me dire c'est qui le député qui est actuel, qui est élu depuis le plus longtemps à l'Assemblée nationale?
Ça doit être François Legault?
Attends un petit peu. D'abord, je veux te dire que ChatGPT m'a vraiment sorti juste de la merde.
Okay, oh, c'était vraiment drôle.
Il était tout mélangé. Là, il me disait que c'était Simon Allaire, député caquiste de Nicolet. Il mélangeait tout ça.
Vaut mieux l'intelligence humaine.
Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai texté Pascal Bérubé, député de Matane, parce que il est passionné d'histoire politique. C'est un gars que, tu sais, c'est le poloud de la politique.
C'est lui?
Ben oui, Colin!
Ah, c'est lui!
OK, fait que je reviens sur Louis Plamondon dans un instant, mais ça m'a fait rire. À Québec, triple égalité de longévité de députés qui ont été élus sans interruption, il faut le dire.
Oui.
Éric Kerr, François Bonnardel et Pascal Bérubé qui sont élus depuis 18 Kerr. Ans. Oui!
J'aurais jamais pensé ça!
C'est un doyen.
Éric, t'as fait 18 ans.
Mais François Legault, que t'as nommé juste avant, a été élu pour la première fois en 1998. C'est le vrai, vrai, vrai doyen. C'est juste qu'il y a eu interruption pendant quelques années. Il a quitté la politique.
Il est revenu. C'est pour ça.
Et sinon, ben, il y a quelques années, quand j'étais encore à l'Assemblée nationale, François Gendron, député d'Abitibi, West, qui a été pendant longtemps le doyen, qui a pris sa retraite en 2018. Mais oui, à Ottawa, Louis Plamondon, 82 ans, devient le député qui a siégé le plus grand nombre de jours consécutifs à la Chambre des communes de l'histoire de la Confédération. Il bat Wilfrid Laurier, qui a été premier ministre du Canada.
Et il va peut-être participer à un autre référendum si le PQ est élu. Donc, félicitations, M. Louis Plamondon, pour sa longévitude à 82 ans. C'est un peu triste, par exemple, il expliquait qu'il est très seul à l'heure actuelle. Sa femme est décédée, malheureusement. Puis il dit, j'ai tellement donné en politique que j'ai plus vraiment d'amis proches.
Ben oui,
parce connais que... plein de monde. Mais je suis même pas capable de me trouver quelqu'un pour aller prendre un café.
Tu connais plein de monde. Quand t'es en politique, là, t'as beaucoup de connaissances.
Ouais.
Mais c'est fou comment la politique absorbe tout. Puis j'en parlais avec des anciens de cabinet d'autres partis cette semaine, justement. Puis ils me disaient, tu sais, quand je suis partie, c'est un ancien de Québec solidaire qui me disait, quand je suis partie, j'ai pris congé, tu sais, pendant quelques mois, on a une prime de séparation, fait que tu peux comme réfléchir au reste de ta vie un petit peu avant de te relancer dans autre chose. Puis il disait c'était pour moi une tellement grande adaptation parce que en politique, tout est régi par le rythme politique. Donc, tu t'ouvres les yeux à 5 heures du matin, tu sais ce que tu as à faire, on travaille tous un peu dans la même direction. Même ta vie sociale, c'est ton équipe. Souvent, on va finir de travailler, on va sortir ensemble, on néglige nos amis. On rappelle nos amis et notre famille à la fin de la session parlementaire. C'est ça, la vie politique. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que, imagine quand ça fait, combien on a dit, 15 000 jours consécutifs que tu es député. Tu sais, moi, j'ai été sur la colline parlementaire une dizaine d'années, puis c'est toute une adaptation quand tu ressors de là. Puis c'est vrai que t'as perdu des amis.
Mm-hmm.
Des amitiés que t'as pas entretenues. Donc,
ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas ça, ces horaires-là.
Non.
C'est tellement...
Personne ne comprend.
Ah ouais, hein?
Pour vrai, personne ne comprend. Puis le nombre
Sauf
de couples...
si t'as eu les pieds dans la politique.
Oui, puis même quand t'es plus là, puis t'es sevré, là... C'est tu sais, moi, je fais souvent l'analogie de ce que c'est de la drogue, la politique.
Ben, Louis Plamondon, il dit ça.
Ben,
il dit, moi, il y en a qui consomment des drogues, il y en a qui consomment du sport, moi, je consomme de la politique.
Ben, il y a quelqu'un que je connais qui, récemment, est devenu un peu, sous-ministre, là, dans une équipe politique, puis il conseille, puis c'est la première fois qu'il avait les pieds là-dedans, parce que son métier, ce pourquoi il a étudié, l'a amené à être dans un cabinet. Ça fait pas 6 mois que déjà, tu vois à quel point la personne, elle est allumée par ça. Ça va être difficile de se voir ailleurs que dans ça.
Puis t'es pas sur le même beat. Je m'excuse, mais si, mettons, là, j'étais addict, on va dire n'importe quoi, là, à la cocaïne.
Oui.
Puis mon mode de vie tourne autour de ça. Ouais. Là, je me tiens avec du monde. Le monde qui sont pas là-dedans, il y a comme un disconnect, pour vrai. Puis tu sais, ça a l'air full négatif, mais c'est vrai que la politique, c'est le fun, mais c'est aussi brûlant là, dans la vie, là, puis très, très fatigant. Puis tout tourne autour de ça. Fait que oui, tu perds des amis. Il y en a qui vont rester, là, évidemment, là, puis qui vont comprendre, surtout ceux qui aiment ça, la politique. Parce que quand vraiment t'aimes pas ça en plus, le fossé qui peut s'installer avec tes amis.
Ben oui. Parce que toi, tu fais juste jaser de ça, t'en manges, t'es passionné.
Mais je sais pas si en sortant de là, ça te tente tant que ça. Ça te tente-tu tant que ça? Pour la majorité des gens que t'as connus, est-ce que c'est.
Hey, d'en parler, tu veux dire?
Ouais, ou... quand t'es pas avec des gens de politique, par exemple, là, ça te fait-tu du bien d'avoir
ça dépend de ta personnalité. Moi, je suis une personne qui. Je suis très empathique dans la vie. Fait que, tu sais, je veux jamais imposer mes affaires, puis je ressens la pièce beaucoup. Fait que quand je vois qu'il y a des gens que. Puis je m'intéresse à énormément d'autres choses. Moi, tu sais, je veux dire, t'es camionneur, je t'intéressais, tu vas où, t'as voyagé combien de kilomètres, waouh. Tu sais, tout m'intéresse dans la vie. Fait que non, je suis pas une personne qui parlait tout le temps de politique. Mais je te dirais que c'est assez rare les gens qui ont travaillé en politique, puis qu'ils sortent de politique, puis ils veulent plus entendre parler de leur vie. Là. D'habitude, non, c'est une passion que t'as, puis qui va rester en filigrane.
Tu sais quoi, on va passer d'une passionnée de politique à un passionné de politique? Parce que c'était le caucus avec Antonine Iaccarini, un moment du lundi au jeudi à midi, qui est toujours très, très, très apprécié à l'émission d'En Jase. Et là, c'est Lambert Drainville qui est à Québec, qui va venir s'asseoir sur ta chaise, Antonine. J'y ai parlé tantôt au téléphone. Il est craqué, Lambert.
Ah ouais?
Ah, il a pas aimé les sorties de Magali Picard hier. Il a pas aimé ce qu'elle a dit. Donc, ceux qui aiment pas les syndicats, restez à l'écoute. Ceux qui les aiment, restez à l'écoute aussi, vous pourrez
pour
les
vous
défendre.
Choquer.
Oui, pour vous choquer. Vous pourrez les défendre au 418-971-1021. Et avant Lambert, Pascal, je propose qu'on fasse une couple de petites manchettes lorsqu'on reviendra de la pause pour savoir ce qui se passe. Hey, 24,4% de taxes commerciales peut-être à Lévis.
Oui, c'est ce qu'on suggère dans le budget 2026. Monsieur Blainé qui rentre en force.
Oui, mais c'est un petit cadeau de Gilles Laulier, ça. Il a laissé un trou de 13,6 millions.
Oui.
Un fun, cadeau. Ça. Oui, un petit cadeau caché.
Puis l'affaire, c'est que Monsieur Blainé avait fait sa campagne sur le fait qu'on n'aura pas de hausse de taxes. Alors, il est pris avec je dirais un cadeau empoisonné.
Il y a les deux mains comme ça. Ben attaché. Restez avec nous à Boulevard 102, c'est l'émission d'En Jase. Lambert Drainville après cette courte pause. Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement midi 44 minutes. On s'apprête à faire le procès féroce. Des syndicats, mais surtout de Magali Picard et de sa sortie qui n'a pas de sens hier en commission parlementaire. Ne pas respecter comme ça un parlementaire, un ministre comme Jean Boulay, qui fait de l'excellent travail depuis 7 ans. Moi, ça me sidère complètement. Mais avant, Pascal, on va faire un tour des principales manchettes. Puis on en parlait avant la pause, là. Hey, être commerçant à Lévis, oh, boy, je serais pas heureux présentement. Je me poserais des questions. Je serais dans l'incertitude pour reprendre un terme de la guerre tarifaire.
Oui, assurément, mais en même temps, je veux dire, ce qui reste entre les mains de Stephen Blainé au début de son mandat est complexe.
Oui.
Budget 2026, pour Lévis, c'est une hausse de taxes qui est suggérée jusqu'à 24 % pour les commerces. Pourquoi? Ben pour résorber le trou budgétaire qui a été laissé de 13,9 millions de dollars. C'est l'administration lévisienne qui a proposé tout ça au conseil municipal. C'est un peu surtaxé, finalement, une partie des commerces de la ville. Ça risque d'être difficile à avaler. Entre autres, je pense au domaine de la restauration. T'sais, c'est pas un pire que l'autre.
Non,
mais
non.
Souvent, les marges de manœuvre
sont très minces.
Exactement. Alors ça, c'était un comité plénier budgétaire qui a été web diffusé de mercredi matin. Alors ce matin, au cours duquel il y a eu des paliers administratifs qui a proposé des visions aux élus. Et ils vont devoir avoir le dernier mot pour faire en sorte d'accepter ou de rejeter ces hypothèses-là. Mais c'est assez dur là, de voir comment est-ce que les commerces vont s'en sortir avec une aussi haute hausse de taxes. Pardon.
Je veux pas dire, je vous l'avais dit, mais quand en ondes, je parlais contre le maire Laulier, « Hey, sa gestion financière a fait défaut. 7,7% d'augmentation de taxes résidentielles il y a 2 ans. Là, on avait le moratoire. On avait été obligé d'enlever la surtaxe sur les terrains vacants à cause du moratoire. » J'ai guys, vous avez bien beau l'avoir mis sur un piédestal, M. Laulier, ça finit mal.
Ben,
puis
moi,
là, ça finit avec un trou de 13,6 millions de dollars.
Je me demande si c'était pas calculé. Il savait qu'il quittait.
Ben, c'est...
Alors, ça ne tombait pas sur lui.
Je suis comme toi.
Mais en même temps, je ne veux pas mettre... ces allégations-là sur le dos de quelqu'un.
Non, en effet, moi non plus, mais...
c'est un peu la vision qu'il nous offre en ce moment,
ouais, M. Laulier. Exactement. Ouais. Ou il a tout simplement manqué le bateau avec son moratoire, parce que le 13,6 millions de trous, c'est pas mal ce que la taxe sur les terrains vacants lui aurait rapporté, mais à cause, c'était 12,8 millions.
C'était
fait que, on est proche.
Ça n'a pas fonctionné.
Exactement.
Ouais. Important appel d'offres aussi à venir pour le tramway ici à Québec. Ben oui, on va en parler de cette manière-là maintenant du tramway. Il faut voir vers l'avant. C'est une façon dont on a donné tout le mandat et la possibilité à Bruno Marchand aux dernières élections. Donc, les travaux qui vont paver la voie au futur réseau. Ça va s'enclencher dans le segment le plus à l'ouest, là, près du IKEA. Alors, encore aujourd'hui, on en parle. La Ville de Québec va lancer l'appel d'offres pour des travaux du tramway. Et dès début 2026, dans le secteur Chaudière, près du IKEA, on va voir des choses se mettre en branle pour le fameux réseau de transport structurant qui va prendre son envol, tiens, ou les rails. Ça dépend comment vous voulez dire les choses.
Exactement.
Crise au PLQ, il y a un solliciteur de Rodriguez sous la loupe du DGEQ. Alors, bien sûr, j'ai pas le choix d'en glisser un petit mot,
bien
mais
sûr.
Pablo Rodriguez qui a reconnu que le député libéral fédéral Fassaï El Khoury a sollicité des dons pour sa course à la chefferie du PLQ, mais ce dernier-là avait pourtant nié à la presse toute implication dans la course. Ça fait beaucoup réagir encore une fois aujourd'hui. Sinon, si je me dirige par contre d'une nouvelle un petit peu moins intéressante, peut-être au commun des mortels, mais très importante parce que ça concerne énormément de personnes maintenant, les batteries de vélo électrique. Là.
Ouais, vas-y donc.
Depuis qu'on a commencé à en acheter en trompe, puis les gens se sont mis à être bien excités des vélos électriques, il y a des incendies. Puis encore aujourd'hui, incendie à Québec où une batterie électrique de vélo est à l'origine de tout ça, puis ça crée d'importants dommages dans une demeure du secteur de Charlebourg. C'était ce matin à 9h30, les pompiers se sont dirigés pour une deuxième alarme et c'était pas juste de la fumée, là. C'était le feu littéralement sur la 52e rue Ouest. On a alerté les secours, environ 30 sapeurs qui ont été déployés sur le terrain. On a aidé à l'évacuation, mais c'est des dommages assez importants. Une trentaine de minutes plus tard, par contre, c'était sous contrôle. Personne n'a été blessé, c'est l'important, mais c'est vraiment la batterie aux ions de lithium du vélo qui pourrait être à l'origine du brasier.
Donc, à surveiller lorsque vous avez des vélos électriques, prenez bien soin là, de faire les vérifications requises.
C'est le fait que ça bouge. Là, dans le transport, ouais. Des fois, même avant la livraison, c'est ce que le service incendie de la Ville de Québec nous avait expliqué dans des entrevues un petit peu plus tôt cette année. Mais ça fait justement un genre de dérèglement dans la batterie, puis c'est inflammable.
On est très content de le recevoir en studio avec nous. Il est à Québec. Je parle de notre chroniqueur politique vulgarisateur Lambert Drainville. Comment ça va, mon chum? Je suis tombé content de te voir.
Ah, c'est le fun de vous voir en studio. C'est le fun d'être de retour à la maison,
oui,
à Québec.
De un retour de Québec. À Québec.
Yes, sir.
Toi qui as décidé de t'établir à Montréal.
Bon. Ouais, pour combien de temps, on verra. Mais pour
pour combien de temps, Lambert? Ben, oui.
J'entends
déjà dit...
beaucoup des gens de Montréal dire ouais. Ça.
Ben, il y a plein d'articles qui sont sortis dans les derniers mois sur l'exode des jeunes familles et des jeunes Montréalais qui n'ont juste pas les moyens de rester là. C'est mon cas. Je veux donner un propriétaire, j'aurais pas le choix de regarder à l'extérieur de l'île.
En
donc,
effet.
À l'extérieur de l'île, hein.
Pourquoi
Québec,
pas revenir à maison?
Fois Cap-Rouge, le Bourg-Neuf, quelque part dans
c'est
ce coin-là.
Ça. La vieille capitale, notre capitale absolument. Nationale. Ça a brassé dans notre capitale nationale hier, puis c'est Magali Picard qui a décidé de mettre le feu. Guerre
ouais.
Sociale!
Ça, c'est ça. Moi, Jeff, tu sais, j'étais responsable en communication au gouvernement. Fait que moi, j'étais responsable. Tu sais, quand j'analyse souvent la politique, je fais souvent la distinction. On le fait ensemble de du fond versus la forme. Mm-hmm. Moi, j'étais responsable de la forme, évidemment. La communication, le message. Et donc, le titre de ma chronique aujourd'hui, ça va être « Tout ce qui est exagéré est insignifiant ». C'est une maxime qui me suit chaque jour. Et donc, effectivement, c'était le début de l'étude du projet de loi de Jean Boulet, le projet de loi 3, sur la réforme du régime syndical. On le rappelle, donc, sur, encore une fois, le fond. C'est un projet de loi qui demande aux syndicats d'ouvrir leurs livres, d'être 100% transparents sur leurs états financiers. Il scinde la cotisation syndicale en deux, rend une partie de la cotisation facultative. Donc, tout ce qui touche contester une loi adoptée par l'Assemblée, les campagnes de publicité de nature politique, la participation à des mouvements sociaux, tout ce qui rentre là-dedans.
La Coop 30 à Dubaï, ça rentre là-dedans.
Exact. Donc, ce ne sera pas interdit, mais le projet de loi va forcer les entités syndicales à rendre ça au vote des membres qui vont pouvoir se prononcer si oui, ils acceptent que les syndicats utilisent ce petit, ça représente à peu près 5% ou moins là, de ce à quoi servent les cotisations, si les syndicats peuvent aller de l'avant et utiliser ça pour de la pub, pour des campagnes politiques. Ça, c'est le fond. Fait que je vais laisser les gens se faire une tête sur le fond. Moi, je me suis déjà prononcé là-dessus. Sur la forme, maintenant, effectivement, Mme Magali Picard est en feu. C'est le moins qu'on puisse dire. Je t'ai sorti quelques extraits. Ouais. Le premier étant lundi dernier à l'Assemblée annuelle du syndicat des métallos.
On va préparer des questions et on va leur demander d'aller rencontrer des partis d'opposition. Le Parti québécois, oui, le Parti libéral, s'il y a Québec solidaire. On ne perdra pas notre temps à aller voir la CAQ, là. On les ignore, ils sont morts. On n'ira pas voir le Parti conservateur, j'espère. Hein? On leur donnera pas d'exposure. Il est assez heureux de même, là. Il y en a un peu, il est tout énervé, notre ami, là, Éric Duhaime, là. Ouh! Hein? Ça va mal. Je passe à la TV, je suis content. C'est qu'on a des élections dans 10 mois. Si on passe à côté de ça, puis qu'on laisse un gouvernement venir au pouvoir et qu'il abroge pas ça dans les premiers jours, c'est le début de la fin. On est à la guerre pour que le 1er mai, on soit capable d'avoir une grève sociale au Québec. Ça, ça veut dire qu'il faut paralyser le Québec.
Quand tu prends la rue puis tu la bloques, ça, c'est le fun.
Hey, ça, c'est le fun quand tu bloques la rue puis tu paralyses le Québec au complet.
Fait qu'on est en guerre. Ouais. Éric Duhaime, que au-dessus de 500 000 personnes ont voté pour lui.
Ouais.
C'est un ulu-berlu.
Ouais.
La CAQ, c'est mort.
Ouais.
Puis, mais Québec solidaire est encore en vie, par exemple. T'as entendu ça, Pascal?
Oui.
C'est bon, hein?
Oui.
On est en guerre.
Qui le croit?
C'est le début de la fin. Telle partie, c'est des câbles, c'est des insignifiants. Sur un ton tellement condescendant.
Mais c'est rare qu'on entend un ton aussi. Je veux dire, on dirait un ton de taverne.
T'as tellement raison.
Puis... encore là, un ton de taverne fâché. Là. C'est
rare
qu'on
voir la messagerie texte, tu l'as pas loin. Les gens disent quoi de ça, mettons?
418-971-1021, réagissez, vous disiez quoi de ça, de Magali Picard?
Ben, j'ai un Dan qui dit vierge, qu'elle est suffisante.
Ah, exactement.
Ça en dit beaucoup.
Ça résume ce que les gens écrivent à l'heure actuelle.
On veut paralyser le Québec. Comment ça a fonctionné pour les employés syndiqués du service de transport de Montréal, de paralyser l'île de Montréal, ça n'a pas donné grand-chose. Le problème, et ce que les syndicats ne semblent pas comprendre, c'est que l'opinion publique, là, dans la lutte syndicale, elle est primordiale à leur cause. Sans qu'il y ait une grande partie de la population qui soit de leur bord, ils vont avoir beaucoup de misère à mettre de pression sur le gouvernement parce que c'est la population, mine de rien, qui élit nos représentants à l'Assemblée nationale, c'est à eux que les élus sont redevables d'abord et avant tout. Alors, d'avoir l'opinion publique de son bord pour le mouvement syndical, c'est hyper important. On l'a vu avec la lutte des médecins. Alors là, moi, je regarde leur stratégie de communication. Ben franchement, pour moi, là, c'est zéro comme dans Ouellet. Je reviens à ça. Là, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et ce qu'on vient d'entendre, je suis certain que les gens trouvent ça exagéré. Puis quand ils écoutent ça, ils font « bon, encore, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre ». Maintenant, hier... en commission parlementaire sur le projet de loi 3.
Laissez-moi vous dire que j'entends déjà le ministre nous dire « Ah, comme ça, la FTQ, vous êtes contre la transparence syndicale. La FTQ, la présidente veut continuer à aller à Dubaï, payée par les membres. Vous êtes d'accord avec les scotch, avec les steaks ou le filet mignon. » Alors, ça, pour vous dire que c'est vraiment insultant. Vraiment insultant qu'on prenne des anecdotes. Alors là, ce qui est assez pathétique également, c'est qu'on a un ministre du Travail qui est dans la même chaise depuis 7 ans. Et il y a deux choses, Monsieur le Président. C'est soit qu'il est innocent ou il fait l'innocent. Parce que vous ne me ferez pas croire que le ministre, en 7 ans, n'a pas eu le temps de comprendre les structures syndicales.
Continuez d'interagir au 418-971-1021. Un sérieux power trip de Magali Picard. Elle a l'air de se penser invincible. Magali, c'est une Rambo 2.0. Cette femme doit être congédiée de son poste et les syndiqués doivent commencer à se poser de sérieuses questions sur comment leurs cotisations sont dépensées. Perso, je la crée dehors. Elle n'a pas sa place. Elle se prend pas pour de la merde.
Qu'est-ce qui vous dérange le plus au 88-971-101? C'est le ton ou c'est vraiment le contenu de ce qu'elle dit?
Et là, la transparence, Lambert, c'est juste normal, la transparence. Fait que pourquoi on traite le ministre d'innocent quand il veut juste de la transparence?
Tu sais, comme je te dis, sur le fond, on peut débattre. On l'a fait avec Farnell il y a quelques semaines sur est-ce que c'est un empiétement de la liberté syndicale, des droits syndicaux. C'est sûr qu'il y a un débat à avoir là. C'est sûr que ça va plus loin que n'importe quel gouvernement avant. Mais pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? T'sais, tu l'entends dire, c'est vraiment insultant que le ministre prenne des anecdotes. Mais je m'excuse, Mathieu, mais si c'est des anecdotes pour toi, là, que tes gens là, dépensent 55$ par verre de scotch de l'argent des membres, que tu t'en ailles à Dubaï en pleine négociation du Front commun, hey, si vraiment ça n'avait pas été un scandale puis ses membres avaient été tellement d'accord là, avec son voyage à Dubaï, penses-tu qu'elle serait revenue en moins de 24 heures?
Ben non.
Tu sais, je pense pas que c'est à son avantage d'essayer de diminuer ces dépenses-là. Ils se sont mis, les syndicats, dans cette situation-là. C'est eux-mêmes qui l'ont entrouverte la porte pour que le ministre du Travail fasse « Ah, ben regarde, il y a clairement un problème là. On va agir. » Le prétexte pour que lui utilise pour aller aussi loin, c'est eux autres qui y ont donné comme une passe sur la palette. Alors,
je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Puis Pascal, corrige-moi, c'est pas des anecdotes, là. Dubaï, les whisky à 55$, les pick-up neufs à chaque année. Je veux dire, à un moment donné, c'est de l'argent, ça, là.
Ben oui, puis je veux dire, même dans les choix personnels qu'on fait, nous, on se rendrait pas là. Si en plus, c'était pas notre argent, je pense qu'on serait un petit peu plus...
Non, puis imagine si c'était un élu qui avait fait ça, là, tu sais, tabarouette, il...
peinturé dans le coin tout de suite.
Il serait peinturé dans le coin, il faudrait qu'il s'excuse. C'est n'importe quelle organisation,
en fait. Faudrait qu'il
démissionne. Ben ouais.
Si un élu utilise les mots que Magali Picard a utilisés à l'endroit du ministre Boulay, il démissionne, il est mis dehors.
Ouais.
Sa carrière politique est terminée.
Les gens qui trouvent que c'est vraiment quelque chose qui a tendance à revenir avec Mme Picard, là, entre autres, on nous écrit, elle est souvent comme ça, de type enragée, souvent en colère, très difficile de l'entendre puis de lui donner du temps dans nos journées en actualité. C'est des auditeurs qui commencent.
C'est vrai, ça, c'est un excellent point.
Tu sais, encore une fois, de mon point de vue de responsable, d'ancien responsable des communications, pourquoi tu ne fais pas juste admettre que c'est inacceptable, ces dépenses-là? Pourquoi est-ce que, tu sais, leur but au final, c'est de faire de la politique. Leur but au final, c'est que cette loi-là, elle ne passe pas. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour que cette loi-là, elle ne passe pas? Bien, faire preuve de bon vouloir, tu sais, mettre en place, dire, avant même que le ministre arrive avec sa loi, de dire, ah, écoutez, monsieur le ministre, on trouve que c'est inacceptable, effectivement. Ça n'a pas de maudit bon sens. On passe le message à nos membres. On met en place nous-mêmes. Puis il y en a qui le faisaient. Il y a des syndicats déjà qui avaient leur livre ouvert, qui étaient très transparents, certains d'entre eux, sur toute forme de dépenses qui étaient très tournées vers les membres, qui leur demandaient souvent leur opinion. Il y en a qui le faisaient déjà.
C'est
il y en a qui ont mis en place des méthodes de transparence. C'est comme ça, selon moi, qu'ils auraient pu dire au ministre, mais écoutez, là, on a déjà mis plusieurs éléments en place avant même que vous arriviez avec votre loi. Je pense pas que c'est nécessaire.
Mais avec une transparence et une ventilation, ça va aider aussi, je pense, à rétablir le fameux contexte des syndicats dans la vision publique des gens. Ils n'ont pas nécessairement le borésé à la jambe. Là. À chaque fois qu'on parle de négociations et tout ça, c'est les syndicats. C'est fort là, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend. Peu importe les grèves, peu importe les revendications, le syndicat, c'est comme si c'était plus moderne, c'était plus actuel. Il y a encore des bons combats qui sont menés pour des bonnes raisons au niveau syndical
aussi.
Non,
c'est hyper important.
Mais ce qui se passe là nuit énormément à l'image. Est-ce qu'on s'en rend compte du côté de Mme Picard?
Bien, c'est ça. Puis c'est Mme Picard, mais c'est les syndicats en général.
En général.
Tu sais, bien honnêtement, mon message, moi, il est pour tous les syndicats. Mm-hmm. Comme je le dis depuis le début, tout ce qui est exagéré, il est insignifiant. La population, ils en ont marre de voir que dans chacune des décisions qui sont prises au niveau des syndicats, le bien commun, le bien de la population, non seulement ça ne fait même pas partie de la réflexion. On l'a vu avec la FAE qui a brimé les enfants d'école pendant un mois il y a deux ans, sans fonds de grève pour leurs profs, avec des millions à dépenser par contre pour contester la loi 21 que plusieurs de leurs membres probablement supportent. On l'a vu avec les dépenses dont on a parlé, scotch, voyage, repas de luxe. On l'a vu avec Post Canada, qui sont visiblement une organisation trop archaïque et bornée pour se moderniser. Ça coûte des centaines de millions aux contribuables pour les garder en vie
à
chaque année.
On leur a fait près d'un milliard.
Puis en plus de ça, durant le temps des fêtes, ils n'envoient pas les colis, puis ça fout le bordel d'un PME. Puis on l'a vu évidemment récemment avec les syndiqués du transport à Montréal. Alors les Québécois en ont un peu marre de se faire prendre en otage. Et j'ai beaucoup de difficultés J'ai beaucoup de difficultés à comprendre c'est quoi exactement la stratégie de communication des syndicats.
Peut-être
commencer par un petit processus d'introspection, admettre ses erreurs, mettre en place des stratégies pour que ce genre d'événement-là se soit mieux balisé, arrêter de faire peur au monde, là, de dire c'est la guerre, on va paralyser tout, on rentre en guerre, la Terre va arrêter de tourner demain.
Bloquer les rues, ça c'est drôle!
Ça c'est drôle, hein, oui, hey, c'est tellement drôle. Enlever une coupe de bûches dans le feu, là, mener vos batailles sur un ton constructif, souligner les bons coups quand il y en a, informer correctement vos membres par rapport aux changements qui sont réellement en train d'être mis en place. Parce que présentement, je vous l'annonce à tous les syndicats, si un jour, à une certaine époque dans l'histoire du Québec, vous étiez en situation de force au niveau de l'opinion publique, vous ne l'êtes plus.
Hey, parlant de souligner les bons coups et de bonnes stratégies de communication, on entend Jean Boulay, le ministre...
Je t'ai envoyé la clip juste pour qu'on voit un petit peu la différence de ton, tu sais.
Exactement. Ministre du Travail, Jean Boulay, écoutez bien, après s'être fait traiter d'innocent, écoutez bien ça.
Écoutez, d'abord, vous remercier d'être ici et d'avoir préparé un mémoire. Je sais que vous y avez mis du temps. Je veux aussi féliciter la FTQ Construction, là, qui, de façon contemporaine, au dépôt du projet de loi, a soumis à l'attention de ses membres une politique pour contrôler les dépenses, pour éviter ce que les médias appelaient des factures salées.
Il gagne la guerre de l'opinion publique.
C'est un négociateur. C'est ça, sa job. Hey, tu penses que je parlais de passer à la palette, là? Tu sais, ils sont tellement pas stratégiques. Lui, es-tu mort de rire? Hey, il la voit déchirer sa chemise, le traiter d'innocent. Hey, lui, as-tu le beau jeu? Après, c'est Jules Good Guy. Hein? Il s'assure de garder l'opinion publique de son bord. Ah, merci d'être là. Merci pour votre mémoire. Salut même les bons coups. Quand je te dis, il y a des syndicats qui mettent en place des mesures plus transparentes. Il en a lui-même donné un exemple. Il a souligné le bon coup. Prenez des notes. Les syndicats, prenez des notes, parce que tout ce qui est exagéré est Insignifiant!
Insignifiant!
J'attendais une réponse à studio, mais... j'attendais!
Ouais, c'est moi, là, je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire sur insignifiant. Ouais. Hey, parlant de guerre de l'opinion publique, on passe à ton autre sujet. On écoute Vincent Marissal par rapport à la grève à la STM, l'appui de Québec solidaire aux grévistes, qui a été la goutte de trop pour lui.
Ça va l'air de ça. Vous dites que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la position de Québec solidaire face à la grève des transports à la STM, position que les co-chefs ont défendue sur ce plateau dimanche dernier. Ouais. Selon vous, votre parti était du mauvais côté de l'histoire en adoptant une position strictement syndicaliste, déconnectée du terrain et de la population qui souffrait de l'absence de transports en commun. Est-ce que vos électeurs vous l'ont reproché, ça, cette position-là de Québec solidaire?
OK, oui. OK, oui. Puis moi, je suis un gars de terrain, là, puis j'ai la chance d'avoir un comté très urbanisé. Là, quand je fais mon épicerie sur la rue Masson, je parle à tout le monde. Pour ceux qui allaient acheter un pain, pour moi, ça prend 2 heures, là, parce que je parle à tout le monde. Puis vous n'avez pas idée du nombre de courriels
que vous avez reçus.
Qu'on a reçus. Puis moi, je les moniteur avec mon équipe, parce que c'est important d'avoir le pouls. Et pour un qui nous disait « bravo, bravo, continuez la lutte syndicale », tous les autres nous disaient « vous nous avez abandonnés, ouais. vous nous avez tourné le dos ». Et moi, je pense qu'effectivement, cette position tournait le dos.
Est-ce qu'il vient justement d'aller chercher avec ceci, je vais le dire comme ça, là, l'approbation de ses électeurs? Est-ce qu'il vient justement de se rapprocher de ses électeurs en mentionnant ceci en quittant Québec solidaire?
Ben, c'est sûr que lui, il prend le bord de ses électeurs. On en avait parlé ensemble. Les électeurs de Québec solidaire sont essentiellement à Montréal, là, en grande partie. Puis ce sont les gens qui prennent les transports en commun, qui n'ont pas de voiture. Fait qu'ils étaient les premiers visés par cette grève-là. Maintenant, la décision du parti, encore une fois, on en a parlé. Pas obligé de revenir là-dessus. Fait que c'est sûr que lui, il allait pour ses commettants. Sur le fond, qu'il quitte, qu'il a été déçu de la position de son parti sur la STM, sur Arun Boisy, de dire que la base de QS rend ça ingouvernable. T'as le droit là, d'être déçu, t'as le droit de quitter, t'as le droit d'être rendu ailleurs. Ça, c'est bien, mais je reviens encore à ça. Sur la forme, et Labrie, Christine Labrie et Gabriel Nadeau-Dubois, qui ont également annoncé qu'ils quittaient dans les derniers mois, sont des bons exemples de ça. Il y a une manière de le faire. Là, il sort en point de presse. Il n'est pas content que le parti ait appris qu'il y avait eu des discussions avec le PQ. Tabarouette, hein. Puis là, il sort en disant « Écoute, le parti n'est pas gouvernable, il n'est pas rationnel, il est paralysé. » Tu sais, il fesse dans le dash solide, là. Solide, là, tu sais. T'étais-tu obligé d'aller aussi loin que ça?
C'est deux manques de respect consécutifs pour toi, pour un parti dans lequel, mettons, t'as pu évoluer à travers des années?
Ben c'est ça, c'est exactement ça. Ça fait 7 ans que tu te bats pour ce parti-là. Puis t'étais journaliste à la presse pendant des années avant. Depuis la naissance de ce parti-là, qui ont de la difficulté à concilier les désirs de la base avec les désirs de l'aile plus parlementaire, plus pragmatique, tu me feras pas à croire que là, soudainement, tu t'es réveillé après 7 ans comme député, puis bang, esprit, tu viens d'apprendre que, la base, ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien radical, ce parti-là. Fait que tu sais, à un moment donné, t'as milité pour ce parti-là, tu l'as défendu pendant des années, puis là, tu sors comme si t'avais eu une illumination. Puis, ben honnêtement, il est un peu dur à suivre, là. Tu sais, dans les dernières années, il a approché le Parti libéral du Canada, un parti multiculturaliste fédéraliste, avant d'aboutir chez Québec solidaire, qui est multiculturaliste, mais souverainiste de façade. Puis là, il est rendu qu'il approche le PQ, qui, lui, est zéro multiculturaliste, puis souverainiste dans le plancher. Là, il se présente en grand défenseur de l'indépendance. Ses collègues, puis bien franchement, à l'Assemblée nationale, à l'interne, on le savait très bien. Là, on les connaît, là, les grands indépendantistes, nationalistes, souverainistes.
Marissal n'en fait pas partie.
Ben non, pas vraiment. Puis,
attends une minute, il y a un passé à la presse. Ouais, la presse, c'est un média souverainiste.
Ben vraiment, vraiment. Il dit qu'il a essayé de faire équipe avec GND pour recentrer le parti. GND est sorti hier pour contredire ça. T'sais. Fait que là, tu fais de la politique. Un peu comme ce que je t'avais dit avec Maïté Blanchette-Vézina, c'est quoi ton endgame? T'sais, tu fais de la politique, ton but, c'est un objectif. Visiblement, c'est d'être réélu pour lui dans Rosemont. T'sais, si c'est ça ton objectif, peux-tu quitter d'une manière... Je te donnais, quand on se parlait plus tôt avant d'entrer en onde, là, la métaphore sportive. Là, t'sais, t'es un athlète, là, puis là, soudainement, t'as plus de contrat. Tu penses, tu t'en vas-tu de la chambre là, après la dernière pratique en envoyant chier tes coéquipiers, ton directeur général, ton équipe au complet? Non. Qu'est-ce que l'autre... quand tu vas être free agent, quand tu vas être agent libre, là, une autre équipe qui va vouloir t'embaucher, ils vont peut-être se dire « ouais ».
Ouais, tu pars, puis là, tu disais hey, « je vous remercie pour les bonnes années que vous m'avez données. Hey, je me souviens, en 2008, on a fait une longue run, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. J'aurais donc bien aimé ça, lever la Coupe Stanley chez
puis
vous. »
Puis je pense que si, par exemple, t'as des altercations régulières carrière avec ton parti, ça fait plus, t'es en chicane ou quoi que ce soit, il y a quand même manière de dire hey, merci ben à oui. tous ceux qui ont été supporters du parti pendant ces années-là. Moi, je m'en vais ailleurs pour donner. Tu sais, tout est faisable d'une façon gracieuse.
Ben, tu sais, puis encore une fois, je donne l'exemple de Christine Labrie puis GND. On pas mâché leurs mots là, sur notamment la base militante, comment c'était difficile de remplir leurs objectifs et leurs demandes, qui étaient très difficiles à satisfaire. Ils ont passé leur message, mais ils l'ont fait d'une certaine manière où ça n'entache pas le parti plus qu'il faut. Ouais. Et à un moment donné, ce gars-là va devoir, s'il veut se faire élire, se trouver une nouvelle formation politique. Et Dieu sait que le PQ, présentement, n'ont pas de difficulté à trouver des candidats.
Non,
si tu as le choix entre un candidat moins connu, mais qui a des bonnes chances de se faire élire dans Rosemont parce que le PQ est dans le haut des sondages, ou le gars que tu sais que si tu l'embarques dans ton équipe, si ça va mal dans 3, 4, 5 ans, puis ça commence à chauffer.
Il peut te poignarder dans le dos.
Il va te poignarder dans le dos, il va aller se magasiner à un autre poste d'un autre parti, puis le mec, il sac son camp, il va crisser. Oups, excusez-moi.
Le feu.
Il va sacrer tout le monde en dessous de l'autobus. Sérieusement, ouais.
Je t'ai vu fâché, là. Puis là, il te reste une minute à ta chronique. Là. Fait que là, je vais te faire un cadeau. Vu que tu es ici, dans nos studios à Québec, et que j'apprécie tes chroniques deux fois par semaine, déchire ta chemise, je suis Jean Chrétien, là, puis les libéraux en 95. Ah ouais, là.
Ben, ouais, ben, encore là, tu sais, oui, tu sais, c'est. Ben, franchement, c'est on est personne n'est tombé de sa chaise.
Ben non.
Tout le monde a vu ça passer. Les fling-flang du camp du Non, on en a-tu vu passer, là, les dépenses fédérales non déclarées,
toute l'affaire du Levin,
le scandale des commandites. Tu sais, écoute, la liste est longue. Fait que, tu sais, un de plus, un moins, on n'était pas très, très surpris. Maintenant, au niveau éthique, comment les différents partis ont réagi? Ils ont tous réagi de la même façon. Le fraude organisée, clame le PQ. Référendum volé, QS. Mépris de la démocratie, la CAQ, même Éric Duhaime, ce qu'il qualifie de commande politique. Qui est le seul parti qui n'a pas été capable de critiquer une tactique frauduleuse et antidémocratique?
Attends, mais c'est ceux-là qui ont offert des brownies, là?
Et bingo! Ce sont toujours les mêmes, les partisans de la, disons, de la, l'éthique et des méthodes de financement absolument rigoureuses.
Pascal, même mon père, qui a toujours vécu avec ses bobettes rouges libérales, qui en 95 voulait garder son Canada, OK? Avait décidé de voter pour la CAQ. Là, il est déçu à côté de François Legault. Il me parle de François Legault et de Donald Trump sur le même ton, c'est tout dire. Okay? Mais avec ce qui se passe depuis deux semaines au Parti libéral du Québec, il m'a dit « C'est-tu quoi? » D'après moi, je retourne à la CAQ.
Ben, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont actuellement fans des politiques, puis c'est sûr qu'il y en a qui vont faire le syndrome de l'écureuil. Puis si c'est favorable à la CAQ, j'en reviens pas. Ben, en même temps.
Ben, c'est sûr que c'est favorable à la CAQ.
Mais
ben,
mettons aux élections, si on voit ça, puis c'est effectivement constaté, puis c'est vrai.
Non, mais c'est sûr, je te le dis aujourd'hui, je te le dis, c'est favorable
non,
à la
CAQ. Ça va être ça.
Non, je te dis pas, ça va être ça. Je te dis, ça l'est présentement, puis maintenant, reste à voir dans quelle mesure ça le sera.
Mais admettons qu'aux élections, la CAQ, remonte effectivement, puis dans les votes, c'est concluant. Ça va résumer à quel point, actuellement, on est pauvre politiquement, et je l'explique d'une seule manière.
Vas-y donc.
Juste, Vincent Marissal, la manière dont tu fais les choses. Quand t'es politicien, là, quand t'es une personnalité politique, tu dois avoir un respect qui est plus haut que ton parti, qui est plus haut que tes collègues, qui est plus haut que le parti d'opposition, qui est plus haut que... C'est un respect de la politique en soi. Puis ça s'est tellement perdu, selon moi, dans les dernières années, de dire ciao bye à son parti comme ça, puis en se disant peut-être ben si je ramasse mon ancien parti, je vais favoriser un autre parti, donc dans ma façon de parler, on va peut-être en choisir un autre parti, puis le mien, il va en souffrir, mais pas nécessairement. Tu viens de faire souffrir la politique en entier.
En effet.
Parce que tu dois être content d'avoir des opposants politiques. Tu dois être content d'avoir des débats d'idées, puis d'être en chambre, puis de poser des questions, puis des choses comme ça. Tu dois avoir du respect pour l'électeur qui veut ces débats-là, qui veut pas juste se faire dire et imposer des choses, mais qui veut comprendre ce qui se trame en arrière. Et d'avoir des opposants, d'avoir des gens qui pensent pas comme toi, qui sortent de la boîte de verre,
c'est très sain.
C'est sain.
Ouais.
Puis c'est essentiel en démocratie. Puis je trouve qu'actuellement, tout parti confondu, il y a beaucoup de personnalités politiques qui manquent de respect à la démocratie qu'on a et à la politique.
Ouais. Puis, tu sais, je vais juste finir avec le Parti libéral.
Vas-y.
Ils sont présentement dans une crise terrible qui leur fait énormément mal. Là, il y a un enjeu d'éthique par rapport au référendum de 95 qui sort dans les médias. C'est de quoi qui est arrivé il y a 30 ans. Si tu n'es pas capable de dénoncer les manières non éthiques qui ont été utilisées il y a 30 ans, alors que toi-même, tu traverses une crise où ton fonctionnement puis ton éthique est remis en question, bien, tabarouette, j'ai le goût de te laisser en te disant, des fois en politique, là, tu récoltes ce que tu sèmes.
Et t'as entièrement raison. L'Ambert Drainville, cette chaise-là, sera toujours disponible pour toi quand tu passes à Québec. C'est toujours un plaisir de te voir en personne, mon chum. Oui, ouais, c'est ça, il déménage à Québec très, très, très bientôt. Pascal, tu nous as préparé une entrevue avec une invitée là, qui s'en vient après la pause. J'ai donc bien hâte. Présente-nous-les.
Oui, Claudia, vous l'avez déjà entendu. J'avais fait des dossiers avec elle et elle a récemment fait un point de presse important au niveau du fédéral. C'est cette femme-là qui a été victime d'un accident avec les chauffeurs Inc. alors qu'elle s'est ramassée entre un chauffeur de poids lourd et un autobus scolaire en genre de crêpe et elle a survécu à cet accident-là. Puis maintenant, ben, elle se veut un peu porte-étendard de la sécurité qui se doit d'être augmentée. La façon dont on octroie les permis. Il y a eu plusieurs quand même changements là, dans les dernières semaines. Mais elle a été invitée au fédéral dernièrement pour jaser de tout ça. Alors, on va aller lui jaser et lui demander qu'est-ce qui se passe, ouais. Comment est-ce que tu as été reçu au niveau politique, comment est-ce que les gens t'en parlent. Mais il y a eu conférence de presse avec Xavier Barcelos-Duval qui a été aussi, splouché partout.
Et on va parler d'immobilistes, je crois, du Parti libéral du Canada dans le dossier. Donc, c'est immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102.1.
On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 18h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine. 100% talk. Boulevard 102.1. Le midi, on en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Pascal Cévé, tu vas toujours me faire des surprises.
Pourquoi?
Ben là, tu sais, t'es allé monter le Kilimanjaro.
Oui.
Là, je me disais, non, le Kilimanjaro. Là, hier, on a reçu Emmanuel Deguara, tu sais.
Oui.
Il a dit, hey, moi, je m'en vais monter le Népal. Puis là, j'ai vu dans tes yeux, hein, je pourrais aller au Népal. Attends une minute. T'es allé à Chicago en fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler d'ailleurs en fin d'émission. Puis là, ben, tu me dis, hey, on va parler à Claudia après la pause. C'est pas vrai, pantoute. On parle pas pantoute à Claudia. C'est à qui qu'on parle?
Ben, je pense que j'étais peut-être un peu trop excitée, là. Mais Chantal Lamarre. Chantal Lamarre,
oh,
pour
wow.
moi, c'est une précurseur de tout ce qui est place aux femmes dans l'actualité,
tellement.
Dans l'humour. Je suis fan d'elle depuis toujours. J'écoutais Infomat. Je pense que j'avais pas 5 ans. Je comprenais rien. Je veux dire, fuck all. Tu sais, j'étais très honnête.
En effet, ben, ça fait 25 ans qu'elle est infomane.
Je connaissais rien.
Puis là, je veux pas vieillir Chantal.
Non, pas du tout. À ce qu'il disait, mais j'aimais comment c'était traité. Puis toujours, 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 le moment où j'ai des creux de vague à m'intéresser à l'actualité, avant d'en être complètement fan fini, c'était Infoman qui me ramenait. Et Chantal Lamarre, j'adore son rôle, j'adore qui elle est. Puis Crème, elle aussi s'est lancée tout un défi.
Ben oui, puis là, elle est au bout du fil pour nous en parler, justement. Chantal Lamarre, comment vas-tu?
Ça va bien.
Excellent. Chantal, je ne vais pas te vieillir en disant que ça fait 25 ans que tu es
Non, non, mais Claudia, je ne sais pas, là, il y avait quelque chose, des petits courts-circuits, ouais. C'est normal. Hein?
Non, est-ce que Claudia, ça va être notre invitée
Après.
Suivante.
Non, exactement. Non, c'est ça.
Malheureusement, une dame qui a vécu un accident avec un poids lourd, les fameuses problématiques de chauffeur.
Bon.
Non, non, on n'a pas...
On comprend ça, suivez un pacing.
C'est
on n'a pas oublié votre nom.
Tu sais pas.
Chantal, faut que je te pose la question. Comment tu fais pour endurer Jean-René depuis 25 ans?
Comment c'est
Ouais, comment tu fais pour endurer Jean-René Dufort depuis 25 ans? Là, il y a toujours une niaiserie par-dessus une autre. Là, tu fais comment? Explique-moi ça.
Hey, c'est drôle, ça. Il me semble qu'on aurait pu poser exactement cette question-là avec moi. Plus niaiseuse que lui, en fait.
Ah, oh, ouais?
Ben oui, c'est clair. Il est plus rationnel, il est plus cérébral, il est plus. C'est un scientifique. Tu sais, fait que c'est moi la niaiseuse, la fantaisiste, et puis MC Gilles aussi, là, qui est le pitre de service. Non, il est straight, lui, là.
Fait que c'est pas tant surprenant que Chantal Lamarre se lance sur les planches de différents théâtres au Québec pour faire un show d'humour, là, un show en solo, stépette et cornemuse.
Ben, c'est mon métier, c'est mon premier métier. Moi, je suis une comédienne, c'est ça ma formation, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai moins fait pendant une couple d'années parce que j'avais des enfants, j'avais de très très beaux projets à la télé, puis bon, ben c'est une nature de même, un peu entière. Là, moi c'est le plaisir que je privilégie, c'est ça que je mets en haut de la pile quand je fais quelque chose. Puis aussi, si tu veux avoir du plaisir à faire quelque chose, faut que tu consacres complètement. Alors oui, c'est un show, mais est-ce que c'est un show d'humour? Ça serait ça la bonne question, tu sais, parce que c'est Il y a des codes, bien sûr, c'est très, très fantaisiste. Oui, je pense que c'est drôle. Oui, parce que ça rit. Mais en même temps, c'est pas que ça. Tu sais, c'est comme, c'est un univers. C'est raconté, c'est du récit. C'est un petit peu personnel, c'est un peu performatif. Ça rentre dans pas de case, là, tu sais. Ben, c'est drôle.
Est-ce que ça manquait dans le pedigree, dans les dernières années, ce côté-là que t'as, en fait, là, de vouloir faire du théâtre puis de ta formation? C'est-tu un genre de « faut que je le fasse maintenant puis ça me brûle à l'intérieur »?
Exactement. Oui, oui, c'est une vraie, vraie pulsion. Tu sais, tu te lèves un matin et tu fais « bon, comment je fais pour renouveler ma dose d'enthousiasme pour moi puis pour les autres aussi? » Parce que, tu sais, j'ai quelque chose de... On a beau dire, là, je suis dans le paysage bien longtemps, mais avec énormément, avec beaucoup de discrétion. Tu sais, je prends pas tant de place que ça. Je suis très, très, très heureuse à faire ce que j'ai à faire. Puis pas bien vorace, moi, pour être, c'est pas moi, c'est la grosse marquise du showbiz, là. Très, très, très. je suis une praticienne, je suis une artisane. Fait qu'à un moment donné, ça a fait oui. C'est le temps, pendant que tu as le cœur, l'énergie, les idées, l'envie profonde, parce que tout à coup, l'envie passe, là, puis tu fais « Ah là, ça y est, j'ai le temps de faire ça. » Ben peut-être qu'il y aura même plus il y aura plus d'enthousiasme, parce qu'il faut que tu testes un peu avant, il faut que tu te dises « Écoute, on y va bien humblement, là, sans prétention, puis on écrit une petite affaire qui est un objet culturel, puis on va aller tester, on va aller voir. » Puis tout à coup, ben, oups, ça marche un peu, puis ça marche un peu. Puis là, on te propose de le faire plus longtemps, et puis ça se peaufine, puis ça se raffine, cette affaire-là. Fait que c'est ça, tu c'est organique, puis t'es très, très, très content de ton sort, puis tu fais, ben finalement, c'était ça que je voulais, c'était exactement ça. C'était aller rencontrer le monde, puis là, ben écoute, je me bourre la face. Ça paraît. Ceux qui me connaissent, ils font, mon Dieu, un peu de fatigue, mais beaucoup d'enthousiasme.
Ah, c'est donc bien le fun. Ouais. Chantal, on a appris cette semaine que le Bye Bye et Infoman seront en direct le 31 décembre parce que l'actualité politique est juste bien folle ces temps-ci. Comment t'entrevois ce défi-là?
Ben, vous savez, vous avez vu ça?
Bon, on a vu ça dans les médias, là, non?
Ben, je pense que c'est un gag, moi, parce que c'est comme...
Oh, ouais! Ben, je me suis fait pogner par une fausse nouvelle!
Ben, j'ai bien peur. En tout cas, moi, je suis pas là le 31, fait que je suis pas dedans, si c'est en direct. Puis moi, je connais du monde qui sont en train de répéter des sketchs qui en tournent, fait que je sais pas comment ça va se passer.
Ben là, Chantal, j'ai été déjoué par une fake news.
Mais honnêtement...
Ça n'a pas de bon sens.
En fait, c'est parce que ce qui roulait partout, c'était comme... Il se passe tellement d'affaires, ça va tellement vite. On a puis tu sais, c'est souvent en fin d'année, tout à coup, que l'actualité... Ça se bouleverse, ça change. Puis quand tu fais une revue de l'année, parce que là, on commence à avoir un peu l'habitude, tu y penses tout le temps. Puis là, des fois, tu reviens avec quelque chose qui était très, 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 très drôle au mois de juin. Mais ça fait déjà très longtemps. Puis au bye-bye, ça a toujours été ça, qu'à la dernière minute, whoop, gros coup de théâtre, hein, voyons, on se crache un sketch, on en fait un autre. Ça a toujours été comme ça. T'es là, t'es on jusqu'à la dernière minute.
Mais côté anecdote, de façon anecdotique en ce moment, c'est vraiment particulier. Je peux pas croire, on est tous dans le même bateau, on est des acteurs de l'actualité, nous, ben, du moins des commentateurs ici à la radio. Puis on n'a pas une journée où on souffle un peu là, depuis... Et même cet été qui est reconnu habituellement pour être on manque de sujets, on était la broue dans le toupette. Ça doit être complexe, là. Au niveau anecdotique, c'est-tu une des pires années à scraper et recommencer?
On dit ça chaque année.
Ah oui?
À chaque année. Ben oui, c'est toujours comme... On le croit pas, on croit pas ce qu'on vit. Je pense que, bon, globalement, il y a... Tu sais, je sais pas, j'écoutais quelque chose justement à radio qui disait, bon, est-ce qu'on est en train de traverser la pire crise depuis très, très longtemps? Puis bon, en tout cas, on a le vent d'en face en maudit. Mais il me semble que chaque année, quand on regardait ça, on se disait toujours... Puis en même temps, même pour le bye-bye, il y a des choses qui sont produites qui sont drôles ou qui sont un petit peu lumineuses ou qui sont le fun à parodier parce que, tu sais, tu ne fais pas non plus un sketch formidable avec un génocide, une guerre. Ça, c'est bien entendu. Mais c'est vrai que là, depuis quelque temps, franchement, Mercure, il est rétro-pédale, rétrograde parce que on est tout le temps ébahi. Mais voyons, on ne croit pas ce qu'on vit. Ça pourrait résumer l'état des lieux. C'est ça.
Chantal, en terminant, si je te demandais deux moments forts de ta carrière de 25 ans, Infoman, les deux moments qui t'ont fait rire le plus, ça serait lesquels?
Hé hey, là là! Hey, des fois, on me demande ça, puis tout ce bout, tu sais, c'est comme tout d'un coup, là, tu sais, quand on dit « puis il va y avoir bien des voix qui convergent. Écoute, moi, il n'y a pas un moment particulier, mais j'ai, tu sais, j'ai souvenance de fois où vraiment ça fait mal, là, tu sais, ça fait mal au plexus, là, tellement qu'on vient de finir quelque chose de d'innocent, là. Puis là, tu ris, puis tu ris, puis tu rentres, là, chez vous, puis tu dis « Hey! » Je suis payé pour faire ça. Puis d'autres fois, c'est mémorable aussi comment est-ce que tu peines, puis tu cherches une issue, puis tu peux faire la meilleure chronique possible, mais t'as pas grand pogne sur quelque chose. Je pense que vraiment, les grands moments, c'est quand un matin, tu te lèves, tu dis « Hein? » Ça fait 10 ans. Puis après ça, tu fais « Hein? » Ça fait 25. C'est réaliser ça parce que c'est une chance inouïe que peu de monde ont, puis je la mesure, je la constate, j'en suis absolument consciente, puis ce fut ma grande chance de télévisuelle en tout cas, puis pour le reste, ben c'est ça, parce que tu as eu cette grande chance là, ben tu t'en permets d'autres, puis tu pars en tournée parce que ça t'a manqué beaucoup, puis finalement, t'es heureux. Le monde va mal, mais toi, t'es heureux. Devrais-tu pas le dire?
Non, ça fait du bien.
Hey, ouais. Go. Ouais. Go. Partage-nous ton bonheur. Et Chantal.
Je souhaite aussi.
Oh, on l'est pas mal, nous autres aussi, moi et Pascal. T'as pas à t'inquiéter là-dessus. Chantal Lamarre sera au Grand Théâtre de Québec le 31 mars prochain pour son spectacle Stepette et Cornemuse. Les billets sont en vente sur grandtheatre.ca, j'imagine, Chantal?
Oui, puis sur chantallamarre.com aussi, on peut trouver toutes les dates, parce que j'y vais souvent à Québec, là. J'étais à l'Anglicane la semaine passée. Dans deux semaines, j'étais à la Chapelle. Fait que c'est ça.
Magnifique.
Et si ça n'adonne pas le 31 mars, surveillez ça. On revient. On est tout le temps là. On adore ça.
Parfait. Merci beaucoup, Chantal, d'avoir participé à l'émission dans Jazz. Salut.
Bonne journée.
Salut, bye. Bonne journée. Chantal Lamarre. Wow, tu parles d'un dynamisme, Pascal.
Ah ouais, vraiment le fun. Pour vrai, ça me fait rire qu'elle dise, ben non, c'est moi qui est bien plus nounoune que Jean-René.
Ben oui,
lui,
non,
à la limite, il est pragmatique.
C'est un scientifique.
C'est un super trio. C'est trois-là, le MC Gilles, Chantal Lamarre, puis Jean-René Dufort, on est chanceux de les avoir eu au Québec, moi, de les avoir encore dans leur style d'émission.
Ah, clairement. Puis honnêtement, moi, j'aime mieux l'émission de fin d'année d'Infoman que le Bye Bye.
Non, depuis des années.
Beaucoup mieux renseigné.
Toujours la petite compétition.
Dans l'année. Mais... Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup plus ça. Parler de compétition, oui. Pascal, ce soir, le Canadien va affronter ce joueur. That puck still loose down low. Held in by Eichel, and he lost it. A lookout. Cooley looking to break. Logan Cooley, save Lindblom, who's puck score? Le Canadien est en Utah, Pascal, pour affronter les Mammouths. Hey, c'est-tu lettre comme nom d'équipe, pareil, on va se le dire.
C'est un peu plat, les Mammouths t'essaies de le tourner tous les bords, puis il n'y a pas grand-chose de marketing là, dans le Mammouth. Là.
Exactement. Donc, deuxième match de saison entre les deux équipes. Le Canadien les avait battus 6-1 samedi soir au Centre Bell. Premier match d'une série de 3 à l'étranger. C'est Utah ce soir. C'est Vegas, mais vendredi à 4h, Pascal. Fait que juste un petit peu après notre émission, une petite bière, on regarde
le
Canadien. Et samedi 15h, Pascal, l'Avalanche du Colorado va mettre son gilet des Nordiques de Québec. Donc, ça va être un Nordique canadien, samedi 15h en direct du Colorado. Ah, ça me fait toujours mal quand ils mettent le gilet des Nordiques, Pascal.
En même temps, c'est un beau clin d'œil.
C'est un très, très, très beau clin d'œil. Alors, surveillez ça ce soir, 21h30, le Canadien contre Utah. C'est Thanksgiving aux États-Unis.
Oui.
Donc, demain, on va vous en parler. Mais pendant l'émission, il y aura le match Packers Lyon de Détroit qui va se dérouler dans l'NFL. C'est trois matchs. Chiefs, Cowboys par la suite à 4h. Et en soirée, c'est les Bengals de Cincinnati avec le retour de ton Joe Burrow.
Enfin! Comment ça va jouer, par contre?
Ouais,
c'est une autre
qui va affronter Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore. Honnêtement, c'est trois excellents matchs de football qu'on va avoir également demain. Bon, après la pause, on appelle Claudia?
Oui.
On parle avec Claudia Boucher, une citoyenne qui a vécu un accident très grave avec un poids lourd le 11 septembre dernier à Québec. Elle était au Parlement hier à la Chambre des communes à Ottawa pour une conférence de presse. Puis apparemment que le Parti libéral, on va le dire comme ça, parce qu'elle se pogne un peu le péteux
avec ce qu'on a l'impression. Oui.
Exactement.
Pourtant, c'est criant urgent depuis des mois maintenant.
C'est l'enfer, comme il y a des accidents reliés à la problématique des chauffeurs Inc. qu'on en parle après cette courte pause à Boulevard 102.1. 102.1. Émission On en jase sur Boulevard 101, il est présentement 13h40. On annonce de la pluie intermittente ou de la bruine pour cet après-midi. C'est 4 degrés. 0 degré demain, possibilité d'averse de neige. Même principe pour vendredi avec un moins 1 degré. On parle pas de beaucoup d'accumulation, par exemple, de faible neige. Donc, tout devrait bien aller de ce côté. On va de ce pas rejoindre Claudia Boucher, qui a été victime d'un accident très grave avec un poids lourd le 11 septembre dernier à Québec. Pascal, tu nous avais fait un excellent reportage, justement, avec des extraits d'une entrevue que tu avais fait avec Mme Boucher. Alors, Claudia, comment vas-tu?
Allô, ça va super bien, toi?
Ça va bien. Merci, Claudia, de prendre le temps avec nous aujourd'hui. Hier, j'ai compris que tu étais en conférence de presse, et non pas à Québec, mais à Ottawa, la Chambre des communes. Pourquoi t'es-tu rendue là-bas?
Ben écoute, tout a commencé quand que Pascal m'a contacté pour une entrevue. Ça a fait boule de neige, puis j'ai déboulé sur la colline parlementaire en ce lundi 24 novembre. Donc, c'était pour la conférence de presse suite à l'invitation de Xavier Barcelou-Duval pour le dossier des chauffeurs à rabais.
On s'attendait à quoi de toi dans cette prise de parole-là, Claudia? Parce que, bon, tu es victime, survivante de tout ça, mais tu as surtout un gros message de sécurité que tu brandis à bout de bras. Est-ce qu'on t'a laissé passer ce message-là? Est-ce qu'on a entendu ton message au fédéral?
L'objectif du député du Bloc québécois, dans le fond, c'est qu'il était comme outré que les fédéraux ont dit non à nous recevoir pour qu'on puisse leur faire part de qu'est-ce qu'on a vécu en tant que victime. Puis après ça, ils se sont pas présentés au comité, dans le fond, pour parler du sujet. Donc là, lui, ça lui sonnait l'alarme comme de quoi on laissera pas ça comme ça. Donc, il nous a invités, il a organisé cette conférence de presse-là pour justement qu'on se fasse entendre puis que ça reste pas comme ça pour que tout le travail qui a été fait, toute la médiatisation qu'il y a eu en arrière de ça, ben que ça meurt pas dans l'œuf finalement. Là.
Est-ce que tu as eu l'impression qu'on entendait, parce que c'est quand même assez particulier qu'on t'ait pas reçu d'une autre manière que d'un point de presse, avec tout ce qui se passe, avec les réglementations qui commencent à se faire voir, à se faire aussi passer. On a retiré des permis à des chauffeurs. Ça reste que c'est chaud comme dossier, mais c'est surtout hyper important.
Oui, c'est hyper important. Puis, tu sais, j'ai la cause à cœur. Puis d'avoir des personnes avec moi, justement, qui ont vécu des choses similaires et tout ça, ça a remis les choses en perspective de mon côté à moi. Tu sais, le couple avec qui j'étais là-bas en tant que victime, eux, ben c'est leur carrière au complet qui a écopé. Eux, ils faisaient ça de leur vie. Ils ont vécu un accident tragique à cause d'une personne en sens inverse qui conduisait un camion puis qui avait pas fait son inspection de routine comme il faut. Fait que tout ça, c'est vraiment dramatique. Puis eux, leur accident, ça fait quand même déjà 2 ans. Fait que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que l'industrie crie. Puis là, on se dit, hey, comment de temps on va laisser ça aller encore? Donc oui, de pouvoir venir expliquer un peu c'est quoi les retombées pour les victimes, tu sais, au niveau de nos vies puis des symptômes. Mais aussi, il y avait l'association là, qui s'appelle Caledon Community Road Safety Advocacy Group, qui est une organisation à but non lucratif en Ontario. Eux, ils sont vraiment basés en banlieue de Brampton, qui est un peu là, l'épicentre là, de toute la problématique, tu sais, des chauffeurs illégaux, les faux papiers et tout ça. Puis eux sont amenés à vivre ça quotidiennement, là, mais tu sais, là, des victimes, des décès, le crime organisé, tu sais, que ce soit du trafic de véhicules, d'armes, drogue, humain, tout ça se passe littéralement dans leur cours. Donc, tu sais, d'amener ça justement aux côtés de Xavier qui, lui, dénonce le fléau. Il travaille là-dessus depuis, c'est ça, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, ça amène une crédibilité. Puis, justement, ben moi, personnellement, si tu veux mon avis, c'est que je sens que ça fait bouger la cause. Puis, je me sens entendue. Tu sais, quand j'ai eu ma rencontre avec Xavier, je me disais, crime, ce gars-là, il va faire avancer le dossier, tu sais.
Claudia, je ramène le dossier, justement, plus personnel. Toi, comment tu vis depuis le 11 septembre? Comment tu vis depuis ton accident? As-tu des craintes sur la route? Premièrement, as-tu repris le volant? Quand tu passes à côté d'un camion, le shake te prends-tu? Comment tu vis ça intérieurement? Parce que c'est pas rien ce qui t'est arrivé, là, être coincé entre un poids lourd et un autobus scolaire.
Non, c'est ça. C'est un impact qui est extrêmement violent. Puis quand on avait fait notre entrevue, quand mon accident était récent, tu avais utilisé les mots suis quelque chose comme je suis post-traumatique juste à entendre ton histoire, puis ces mots-là m'ont été adressés parce que j'ai eu peur de mourir, tu sais. Fait que suite à ça, ben là, c'est sûr, j'ai des suivis psychologiques, mais tu sais, j'ai aussi des difficultés qui vont être cognitives. Fait que la difficulté à me concentrer, faire les tâches, tu sais, les plus basiques, m'occuper de moi-même sans culpabilité, ça reste un défi quand que t'es mère de famille, puis qu'après ça, ta vie professionnelle est mise sur pause. Donc, tu sais, oui, la commotion cérébrale qui a été diagnostiquée, après ça, mais j'ai des troubles vestibulaires à cause de, mais c'est ça, tu sais, j'ai des canaux dans mon cerveau qui se sont déplacés suite à l'impact, et j'ai eu un double impact, on se rappelle, parce que le camion, lui, il a breaké seulement lors de l'impact, puis moi, j'ai percuté l'autobus, donc toutes les choses qui m'ont été expliquées, fait que, tu sais, oui, les douleurs cervicales, les douleurs dorsales, les suivis psychologiques, la physio, ben tout ça, c'est mon quotidien en ce moment, fait que ben, tu sais, je vais bien dans le sens où il y a des journées meilleures que d'autres. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur la glace actuellement, mais j'ai comme descendu la pente des dernières semaines. Puis là, je te dirais que suite à, tu sais, un peu le développement avec justement là, Xavier et tout, je sens que ça me donne un peu de gaz pour commencer à la remonter. Là. Mmh.
Moi, j'aime ça t'entendre parce que littéralement, tu as vécu quelque chose qui a mis ta vie en danger. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus shaker la cage que ton témoignage puis te voir là debout en train d'en jaser. Par contre, les auditeurs qui nous écoutent depuis tantôt, 88-971-101 ou encore sur Twitch, nous écrivent « Hey, parce qu'il y en a des camionneurs qui nous écoutent, là, on en a plein qui ont des permis légaux, qui ont étudié en ce sens, qui font tout ce qu'ils doivent faire pour exercer leur métier, qui disent « Hey, ça fait 10 ans qu'on doit parler d'eux, on doit parler de ce problème-là. On est encore là-dedans, on dirait qu'il n'y a rien qui avance. » T'as-tu peur que ça continue d'être juste le quotidien de tous et chacun après, justement, ce genre de petite bulle-là qui nous permet d'en parler plus parce que t'es une victime directe?
Ben oui, c'est sûr, parce que là, tu sais, c'est comme le sujet chaud, mais même dans le sujet chaud, il rouvre pas la porte. Fait que oui, je t'avouerais que ça me fait peur. Puis être sur la route, j'ai jamais été stressée d'être sur la route. Puis, tu sais, mon sentiment, c'est sûr qu'il n'est pas le même. Puis, je compatis aux camionneurs. C'est vraiment une profession que je respecte profondément. J'en côtoie, il y en a dans ma famille. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est le sujet de l'heure. Puis non, ça ne me rentre pas dans la tête qu'au niveau du fédéral, ça ne bouge pas, puis que ça ne soit pas. Tu sais, la sécurité routière des Canadiens, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens du BC, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, de l'Est canadien, que là, il y a beaucoup de trucs qui pop. Fait que on n'est pas tout seul. Puis là, nous, on ressent les retombées de comme du centre du problème qui a été beaucoup pointé vers l'Ontario. Mais là, tu sais, en voyant que c'est un peu partout en train de se propager, il y a des gens qui vont plus à Vancouver à cause du problème des camionneurs, des chauffeurs à rabais, tu sais, fait que les papiers illégaux, tout ça. Il y a eu l'article là, que tu avais mentionné lors de notre dernière entrevue qui avait sorti du Montréalais, qui avait des documents pour, tu sais, du matériel pour falsifier des documents et mettre des faux permis. Tu sais, tout ça. Fait que quand tout ça, tu mélanges un peu cette belle soupe-là, tu dis, voir que ça bouge pas, voir que c'est pas pris en main, ne serait-ce qu'une des demandes du Bloc québécois, il y en a 10 au total. Ben déjà, ça l'aiderait d'en avoir, mettons, 2, peut-être 3, des enquêtes, des suivis là, tu sais, d'entretien d'un camion à l'autre, tu sais, d'une province à l'autre, parce que comme les personnes qui étaient avec moi, là, Alison Dumont, Alexandre Tremblay, dénonçaient, disaient que tant que quelqu'un se fait arrêter pour un mineur ou un majeur, c'est comme ça qu'il y a besoin de métier, ben tu sais, t'as un temps, des fois, tu es obligé d'être à l'arrêt pour faire réparer par quelqu'un qui vient vraiment sur les lieux ou tu as tant de temps pour le faire. Mais quand tu changes de province, puis là, tu t'arrives à une balance, puis il y a une inspection, ben, eux, ils n'ont pas le suivi de ça. Mm-hmm. Mais c'est une grosse lacune, tu sais, quand tu y penses. Là, tu dis, crime, il y en a combien qui prennent la chance de faire ça? Fait que c'est sûr que ça me fait pas sentir en sécurité, ni moi, ni ma famille, ni les gens que je côtoie. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que j'ai le sujet à cœur. Fait que je fais tout ce que je peux pour essayer de que ça puisse bouger, même que mon accident n'a pas servi à rien, finalement.
Claudia Boucher, continue ton excellent travail. Continue de retrouver la santé. On pense à toi. On t'envoie énormément d'ondes positives.
Merci.
Merci beaucoup pour ton entrevue très touchante et très percutante sur le sujet là, des chauffeurs à rabais.
Mais ça m'a fait plaisir. Puis merci à vous pour le temps de parole.
Fait plaisir. Agréable. Merci, Claudia. On se reparle.
OK, bye.
Salut, merci beaucoup. Alors, c'était Claudia Boucher là, qui a été victime, justement, de cet accident. Pascal, dans l'actualité, évidemment, tu nous as parlé de la surtaxe de 24 % des commerçants. Dans Gravel, dans le retour, ils vont en parler.
Oui.
C'est à Lévis. Hey, savais-tu que QS dit que c'est le pire ministre de l'histoire du travail, de l'histoire, Jean Boulay? On est du côté de Magali Picard.
Oui, là, c'est un peu particulier. On n'est pas super surpris, par exemple, que Québec non. solidaire à défendre le côté syndicaliste.
Non, c'est ça. D'après moi, dans le retour de Gravel avec Véro et Audrey, ils vont parler de ça. Puis ils vont sûrement revenir sur Pablo Rodriguez, qui reconnaît que le député libéral fédéral Faisal El Khoury a sollicité des dons pour sa course à la chefferie. Mais là, il nous reste un petit 3 minutes et demie. J'aimerais ça que tu me parles. Apparemment que tu es allé dans un bon restaurant à Chicago.
Oui, mais dans le fond, j'ai voyagé en fin de semaine pour la nourriture et le sport. Est-ce que, que ceux qui sont surpris lèvent la main? Bon, parfait, personne. Mais Chicago, je m'étais fait beaucoup dire que c'était l'endroit par excellence pour bien manger, que ce soit un sandwich à 10$ ou une table à une couple de centaines de dollars. J'ai pas d'enfant, moi, Jeff, fait qu'il faut que je trouve des endroits
Let's
probablement
où, profite-en, ma fille.
Où dépenser, par exemple. Mais,
amuse-toi.
C'est pas parce que je veux pas, là, on s'entend, parce que ce n'est pas actuellement possible dans ma vie. Mais c'est ça, je me suis permise un beau trip à Chicago. D'abord, j'ai été chez Mr. Beef, qui est emblématique parce que, je ne sais pas ça, si vous avez écouté sur Disney+, la formidable série The Bear, si t'aimes un peu la restauration, beaucoup la restauration, ou tout simplement une bonne série, The Bear a fracassé les records.
En tout cas, j'ai vu que toi et Antonine, vous l'avez écouté avec passion. Là,
c'est pas la même.
Je vais
te parler de l'autre.
Okay, vas-y,
exactement.
Vas-y.
Mais The Bear, c'est l'histoire d'un gars qui va prendre une petite sandwicherie puis qui va essayer de transformer en étoilée Michelin, en fait. Okay. Et cette petite sandwicherie-là existe réellement dans un petit quartier assez crado de Chicago.
Fait que t'es allée.
Et je suis allée assurément. C'était bien populaire avant que la série se fasse et le propriétaire, Christian, travaille encore le samedi. C'est lui qui m'a servi. Tout feu, tout flambe, bien content. Et c'est son ami de la garderie qui a fait la série. Donc, il est arrivé à Christian à un moment donné en disant « Hey, je peux-tu utiliser ta sandwicherie pour faire mon show? » Puis ça a été oui. Donc, c'est rendu hyper populaire aussi parce que les fans de The Bear voulaient goûter le fameux sandwich italien au bœuf emblématique. Puis ça, j'en ai mis plein d'images sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram, là, j'en ai fait une publication. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse.
Là, t'as vu ton chef préféré
mais
aussi que tu m'as dit. Raconte-moi ça.
Ça, là, c'est un gros trip. C'est au Alinea, qui est le meilleur restaurant aux États-Unis, qui était un 3 étoiles Michelin jusqu'à il y a 2 semaines, où on en a perdu une. Et c'est mené par Grant Achaz. C'est la série Chef Table que moi, j'adore, qui va raconter le parcours de plusieurs chefs dans le monde. Souvent, oui, des étoilés Michelin, mais quand même, c'est toute l'histoire humaine derrière. Puis tu te rends compte souvent que c'est des gens qui ont bûché, pas à peu près, parce que le métier de cuisinier, le métier de chef, c'était souvent vu comme un sous-métier. Donc, tu fais ça en loin, tu vas continuer de faire des parents qui n'étaient pas vraiment
jubilatifs.
Exactement. Puis c'est des gens qui ont défoncé des portes avec peu de moyens, souvent des actionnaires qui ont financé les bâtiments et qui ont réussi à proposer des menus décadents. Pour moi, Grant, c'est un des plus grands magiciens de la cuisine parce que quand tu arrives à sa table, et c'est pour ça que je voulais y aller, tu ne sais jamais ce que tu vas manger. Tu vas voir une fraise qui finalement goûte la tomate. Tu vas avoir un ballon d'hélium qui finalement est un genre de ballon en sucre que tu dois aspirer. Tu vas arriver avec un genre de feu sur ta table, puis tu sais pas c'est quoi finalement. Trois bouchées plus tard, il ouvre le feu, puis tu as une autre bouchée qui cuisait devant
c'est
toi.
Malade.
C'est vraiment du théâtre culinaire. Et j'ai eu cette chance-là. Je me suis permis d'aller au Alinea en fin de semaine. C'est un resto depuis 2005 qui existe. Et le dit chef est aussi connu. Puis je pense qu'il ne devrait pas être connu pour ça, mais il y a eu le cancer de la langue.
Ah, mon
chef
Dieu!
Chef cuisinier qui a goûté, qui a eu l'ablation des deux côtés de son cou et trois quarts de sa langue à un moment, qui a perdu le goût pendant longtemps et qui a été capable de mettre son restaurant 3 étoiles Michelin avec tout le respect qu'il a pour sa brigade, avec la créativité mentale puis le goût qu'il pouvait s'imaginer dans sa tête jusqu'au moment, en plus, il a retrouvé le goût, quelques années plus tard. Mais c'est un gars qui a dépassé toutes les limites et qui mérite amplement les applaudissements qu'il a dans le monde culinaire en ce moment.
Demain, on se refait un petit 5 minutes sur ton voyage parce que je veux que tu me parles de ta conversation que tu as eue avec ce chef-là. Faut absolument que tu me parles des Bears de Chicago.
Ah oui, avec plaisir.
L'ambiance dans le stade, faut que je sache ça parce que pas le choix en plus que demain, il va y avoir des matchs de foot pendant qu'on va se parler. Fait que là, faut que tu me parles des Bears.
Ah, puis ça.
1920.
Hey, toute une équipe, mais surtout tout que des fans.
Ben,
tout
c'est
que
ça.
Des fans.
Donc, pas le choix. Faut que tu me parles de ça demain. On s'en fait un petit tête-à-tête Chicago. Ça te convient?
Oui, avec plaisir.
Yes, sir. Retour de Gravel qui suit à l'instant même à Boulevard 102.1. Par la suite, c'est Marceau du soir à 18h.
Les auditeurs qui m'écrivent qui ont déjà des enfants qui sont célibataires.
Ah ouais?
Vous faites mourir de rire.
Ouais, c'est ça.
Merci.
Mais je pense que Pascal, un jour, va vouloir avoir... ses propres enfants, je vais le dire comme ça. Je sais pas si c'est bien dit, là,
oui,
mais c'est le mot qui me vient.
On
là.
En reparlera, mais rendu à 31, tu te dis, ben... C'est ça. Mais je les aime, les enfants des autres aussi. On sait jamais.
Ah! On va en parler certains. Pascal CV, toujours un plaisir. On se parle demain à midi. Salut. Bye bye, guys.